Oui, c'est moi. Voilà.
Participe entrée. Attends.
Dès que je désactive les
Ah,
micros,
désactive.
c'est bon? Voilà, génial. Alors, allons-y. Donc, en fait, aujourd'hui, on va poursuivre sur le salut. On avait deux cours sur cette thématique et après, on passe complètement enfin, à autre chose. Dans un prolongement, ce sera la question des fins dernières, de ce qui se passe après, à la fin, complètement. Donc là, en fait, on est vraiment au cœur de notre itinéraire. Si je vous remets la ligne directrice, on est parti de la création. Et puis après, on a pris en compte dans la réflexion toutes sortes de réalités de la vie humaine, le mal, la mort, le péché. Mais le but de tout ce chemin qu'on est en train de faire, c'est bien de dire que Dieu sauve. Que Jésus soit sauveur, ça, je vous rappelle, c'est vraiment le cœur de la foi depuis les origines et c'est vraiment la certitude fondamentale des premiers chrétiens. Alors, nous, on lit les choses avec nos lunettes et on a tendance souvent à penser le sauver, le salut comme un sauvetage, sauver d'eux. Eh bien, il faut aussi, et peut-être surtout d'abord, le penser comme un sauvé vers, qui nous dit ben, qu'on est promis à une plénitude, que notre vie, elle est en marche vers quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, qu'elle est faite pour réussir. Et que si je résume tout ce qu'on a dit, c'est que Dieu sauve non pas d'abord essentiellement nous libérant du péché, du mal et de la mort, mais qu'il nous sauve bien plus radicalement en nous communiquant sa propre vie. Et ça va être le thème d'aujourd'hui. C'est ce que veut exprimer l'idée d'autocommunication dont vous avez vu qu'elle était le titre d'aujourd'hui. Autocommunication. Se communiquer soi-même. C'est un terme qui a été emprunté à un grand théologien du XXe siècle, Karl Rahner, qu'on a déjà, j'ai partagé, je vais vous mettre sa photo. PowerPoint. Partager. Toc. Voilà, Karl Rahner, un Allemand, un des grands, grands théologiens catholiques du XXe siècle, un jésuite, vraiment un des trois, quatre théologiens qui ont dominé le XXe siècle, avec peut-être Hans-Urs von Balthasar, dont on parlera pas mal dans les deux dernières séances, avec Karl Barth du côté protestant, et puis avec en France Henri de Lubac, le père Congar, etc. Une période très glorieuse, on pourrait dire, de la théologie. Et donc, Rahner a élaboré toute une théologie très forte autour de ce terme nouveau d'autocommunication de Dieu. Autocommunication, ça ne veut pas dire communication de quelque chose. Auto, c'est de soi. Communication de soi. Pur don de soi. Ça veut dire que c'est Dieu qui se communique lui-même. De personne qu'il est à la personne que nous sommes sur le mode d'une communication de vie, communication de connaissances et d'amour. Il se transmet lui-même et c'est une initiative complètement libre de sa part. Eh bien, pour Rahner, c'est la donnée centrale du christianisme. Quel est le premier don que Dieu fait aux hommes? Si vous repensez à tout votre parcours depuis 6 mois, eh bien, d'abord, c'est ce qu'on appelle la révélation. Ça veut dire ce premier don, c'est de leur révéler ce qu'il est dans sa réalité intime. Mais Dieu va plus loin. Il ne se contente pas de cette révélation. Il leur donne aussi de participer à ce qu'il est. Deuxième don. Et ce qui est repris derrière cette formulation, de participer à ce qu'il est, c'est l'idée traditionnelle de divinisation de l'homme. On doit devenir participant de la nature divine. Alors, vous voyez, si vous vous rappelez de tout ce qu'on a fait la dernière fois, on a vu qu'il y avait bien des manières d'exprimer le salut. Et on en avait évoqué quelques-unes, de l'ordre de la guérison, de la libération, du rachat. Mais le registre le plus beau pour dire le salut, c'est celui qu'on va explorer aujourd'hui, qui nous situe sur un plan relationnel et qui dit que fondamentalement, qui nous sauve, c'est le don que Dieu nous fait de lui-même, de sa propre vie, ou pour le dire encore autrement, de sa grâce. Donc, on va beaucoup plus loin qu'un salut qui serait limité à une délivrance du péché ou de la mort. On parle d'un salut qui est de l'ordre d'un accomplissement. L'accomplissement de l'homme, de notre vie, dans l'accueil et dans le partage de la vie même de Dieu. Donc, qui est vraiment en cause ici, c'est le sens de notre vie. On est appelé à une vie qui nous dépasse. Alors, il y a un auteur, Bernard Sesboué, il dit très bien ça dans le dictionnaire de spiritualité, qui est un dictionnaire, c'est un des ouvrages fondamentaux hein, dans les dictionnaires de notre foi, dictionnaire de spiritualité, et c'est lui qui a rédigé l'article « Salut ». Et alors, voilà ce qu'il dit. Le paradoxe, retenez bien ce mot, paradoxe de l'anthropologie chrétienne consiste à révéler que l'homme a déjà besoin d'un salut du fait même de sa vocation d'être créé et indépendamment de tout péché. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a besoin d'un salut en raison même de notre vocation. Alors, il va expliquer. La vocation, ce à quoi on est appelé, c'est-à-dire la fin de l'homme, c'est Dieu. Notre réalisation, notre accomplissement, il est en Dieu. Le salut de l'homme, c'est de communier avec Dieu. Cependant, c'est là qu'il y a le paradoxe. En tant qu'il est être créé et fini, l'homme est incapable de réaliser par ses propres forces son désir d'infini et de vivre la communion à la vie divine qui seule peut le sauver et le rendre heureux. Il ne peut que recevoir du don gratuit de Dieu ce dont il a vitalement besoin pour être lui-même. La participation à la vie de Dieu appartient à la définition entière de l'homme en tant qu'homme, elle est indispensable à son salut. Ce qu'il dit là, c'est que notre bonheur, notre salut, réside dans la communion avec Dieu. Et que c'est que comme ça que nous serons pleinement nous-mêmes et pleinement heureux. C'est seulement ainsi que pourra être comblé ce désir d'absolu qui habite dans nos cœurs. Vous voyez, c'est la dernière phrase. La participation à la vie de Dieu appartient à la définition entière de l'homme. Elle est indispensable à son salut. Et ça, dit-il, eh ben, on ne peut pas l'obtenir par nos propres forces. C'est quelque chose qu'on ne peut que recevoir, recevoir du don gratuit de Dieu. Si vous y pensez bien, cette idée, elle est déjà contenue, en quelque sorte, dans la notion de création à l'image de Dieu. Quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, vous voyez bien que ça nous dit d'une certaine façon qu'il est un être qui se définit par rapport à un autre, puisqu'il est l'image d'un autre. Qu'il est d'une certaine façon plus grand que lui-même, qu'il est l'image de quelqu'un qui est plus grand que lui. D'où le paradoxe. D'un côté, on est créé fini, et pourtant, à l'image de quelqu'un qui est plus grand que nous, et fait pour plus que nous-mêmes. Et donc, eh ben, on ne peut s'accomplir qu'en s'ouvrant à plus grand que nous. Le salut nous vient d'un autre, il nous ouvre à un autre, dont on est appelé à partager la vie. Et c'est cette idée sur laquelle on va réfléchir aujourd'hui. Ça vous va? Ça va? Et donc, on va le faire à partir de quatre angles différents qui vont simplement insister sur une facette de cette même idée du partage de la vie de Dieu, qui vont être le pardon, la vie filiale, attendez, je vais bien le plan, vous voyez, pardon, la vie filiale, la divinisation et la vie selon l'esprit. Quatre manières de dire les choses, des angles un peu différents. Alors, on va commencer par le pardon. Et peut-être que vous serez étonné qu'on commence par lui. Mais ce n'est pas sans raison. C'est parce que le pardon est plus radical que tout. Radical, hein, étymologiquement, vous cherchez la racine de radical, c'est justement ses racines. Radix, c'est racine. Donc, dire que le pardon est radical, ça veut dire qu'il est à la racine du salut. Ça veut dire que tout commence par le pardon. Tout est rendu possible par le pardon. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la construction de ce mot en français, pardon, à ce que signifie le préfixe « par » dans le mot « pardon ».
Au-delà de.
Au-delà de. Qu'est-ce que vous diriez encore?
Avec.
Non. Par, ça veut dire, réfléchissez à des mots comme « parfait » ou
grâce
comme
à. «
parvenir ».
Grâce à, non.
Non. Ça veut dire qu'on va jusqu'au bout, qu'on va jusqu'à l'extrême. Quelque chose qui est parfait, c'est que c'est fait jusqu'au bout. Quand on parvient quelque part, on parvient à un but, ça veut dire on va jusqu'au but. Et ben, le pardon, c'est le don parfait. C'est le don par excellence, le don qui va jusqu'au bout, le don au-delà de tout don, le don fondamental. Et le don de Dieu, il est fondamentalement pardon. Ah, ce que j'ai fait. Excusez-moi, c'est une bêtise. Voilà. Non, ouais, c'est une petite bêtise. Voilà. Et alors, pour exprimer ça, je vais vous présenter Lita Basset, cette dame que vous voyez là, qui est une théologienne suisse protestante.
Ça va, je vois bien.
Vous avez ses livres à la bibliothèque Justice, c'est aussi une très bonne biblique. Et elle a inventé une expression vraiment fantastique, qui est celle de pardon originel. Si je vous dis pardon originel, vous pensez à quoi tout de suite?
Péché.
Vous pensez à péché originel. Ah, oui. Elle a appelé son livre, vous voyez, le pardon originel. Elle n'a pas appelé ça le péché originel, elle a appelé ça le pardon originel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Elle a réfléchi sur ce sujet-là, elle a fait une thèse là-dessus, et puis c'est devenu un livre qui est celui-là. Pourquoi ce titre? Eh ben, c'est tout simplement pour dire que ce n'est pas le péché qui est à l'origine. Sa thèse, c'est que c'est l'amour, que c'est le don, et que ce don, il est toujours déjà pardon. Déjà pardon. Ça, c'est vraiment une intuition qui est très puissante. Un pardon originel en contrepoint d'un péché originel. Le péché originel, oui, on a passé une grosse partie de la séance la dernière fois. On sait que c'est une réalité parce qu'on fait l'expérience que le mal nous précède, qu'il nous dépasse, que ça prend l'humanité dès le début. C'est ça que ça veut dire péché originel. Mais ce que nous enseigne la révélation, c'est que le don originel de Dieu est plus radical que ce mal. Et ce don de Dieu, eh ben, il est déjà, bien sûr, de l'ordre de la création. Hein, il nous appelle à être, c'est le don originel. Il nous appelle à être. Et c'est une façon dont on nous dit qu'elle est fondamentalement bonne.
Oh, pas bien. Mais
ce que dit Lita Basset, c'est qu'il est aussi déjà de l'ordre du pardon. Et ce qui lui permet de dire ça, c'est le fait que la création en elle-même, le geste créateur, il englobe, il intègre le risque du mal. Et il contient déjà en lui-même la promesse du triomphe sur le mal, et donc d'un pardon et d'une recréation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand Dieu crée, il intègre cette possibilité qui est liée à notre liberté, que le mal puisse advenir, qu'il y ait des, comme dirait Irénée l'autre fois, hein, vous voyez, des erreurs de parcours, il intègre ça. Et en même temps, il le fait parce que déjà, il intègre le pardon. Le pardon est déjà donné. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? C'est pas gratuit. C'est tout simplement quand on relie l'histoire humaine, l'histoire du salut, à la lumière du Christ. Alors, je vous donne un petit exemple de ce que dit Lita Basset. Entrevoir, pressentir, deviner. Vous voyez, elle ne fait pas des affirmations, hein. Voilà, on n'est pas dans l'ordre du blanc ou du noir. On est vraiment dans un mystère dans lequel on rentre peu à peu, et voilà ce que petit à petit se découvre à nous. Entrevoir, pressentir, deviner le pardon divin à sa source, c'est entrevoir, pressentir, deviner qu'il y a un au-delà du mal, un lieu où le mal habite la vie sans la mettre irrémédiablement en péril, car le pardon y est inscrit comme la seule réalité à la fois originel et englobant. Le mal originel isole et tue en isolant. Le pardon originel, au fondement de l'existence, fondement, se laisse approcher comme ce qui mystérieusement peut englober tout ce qui a été isolé, exclu, tué. Alors, déjà, vous remarquez en rouge, là, l'expression de pardon originel. Et donc, qu'elle nous dit, quand elle dit c'était ce pardon est inscrit dans la vie comme la seule réalité à la fois originelle et englobante, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que, je vais vous expliquer, que le geste créateur était déjà, dès l'origine, don résolu à aller jusqu'au bout. Parce que il était prêt à prendre le risque de tout ce qui était souffrance, mal, mort. Le pardon, c'est le don radical, donc au sens de racine, c'est le don radical de Dieu qui, en prenant le risque de la création, accepte d'emblée tous les risques. Le mal, la mort, les trahisons de la liberté humaine. Alors, je fais une analogie. Les parents, quand ils donnent la vie, eux aussi, en un sens, sont prêts à tout. Ils savent bien que dans ce qui va relever de cette existence qui surgit grâce à eux, tout ne sera pas parfait. Et en même temps, est-ce que le pardon n'est pas déjà là? Est-ce que ses parents ne font pas déjà... Alors, attendez, hein, je veux pas faire quelque chose de complètement idéalisé, mais est-ce que j'ai beaucoup de parents ou est-ce que beaucoup de parents n'aspireraient pas à ça, à se dire que le pardon, il est déjà donné parce que les parents sont décidés à aller jusqu'au bout de l'amour, quel que soit l'accueil du don. Je donne un exemple dans la littérature. Vous vous rappelez des vieux souvenirs pour ceux qui ont lu Les Misérables de Victor Hugo. L'épisode du vol de l'argenterie de Jean Valjean. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean Valjean est évadé, personne ne lui ouvre sa porte, il frappe à la porte de Monseigneur Bienvenu, qu'il accueille pour la nuit, qui ne lui demande rien. Et le lendemain, Jean Valjean s'échappe en ayant volé l'argenterie. Jean Valjean est rattrapé, il est ramené chez Monseigneur Bienvenu entre deux gendarmes. Et voilà ce que dit l'évêque. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourriez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Voilà. Le don qui est décidé à aller jusqu'au bout. Le pardon déjà donné. Voilà. Donc, vous voyez, on revient toujours sur cette discussion qu'on a déjà pas mal eue. Il est tout à fait légitime de dire que le pardon est pardon du péché. Mais d'une certaine façon, le penser seulement ainsi, c'est lui donner un sens trop étroit. Parce que dans notre vie, on rencontre l'obstacle du péché, de fait, le don de Dieu devient pardon, au sens qu'on donne habituellement au mot, un pardon de l'ordre d'une réconciliation, pardon de faute. Mais en réalité, le pardon de Dieu, c'est beaucoup plus. Et le salut promis par Dieu, c'est beaucoup plus qu'être simplement tiré de notre péché. Le pardon de Dieu dans sa profondeur, c'est le don de Dieu en tant qu'il est dès l'origine promesse d'aller jusqu'au bout. Voilà, ça je pense que ça résume bien ce que je veux vous dire. Le pardon de Dieu dans sa profondeur, c'est le don de Dieu en tant qu'il est dès l'origine promesse d'aller jusqu'au bout. Et quand je vous disais qu'est-ce qui nous permet de lire ça, de voir ça, d'entrevoir ça, comme dit Elita Basset, eh bien, c'est ce qui se passe en Jésus. C'est Jésus qui donne sa vie pour nous. Là, on comprend que l'amour de Dieu était prêt à aller jusqu'au bout. Je fais une petite parenthèse. Il y a un chant qu'on chante pendant la vigile pascale, la nuit de Pâques, qui s'appelle l'Exultet. Et dedans, il y a une phrase qui peut paraître un peu curieuse, qui dit « Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Heureuse faute, Félix culpa. » Pourquoi heureuse faute? Et je crois que le sens de cette expression, c'est simplement que sans le péché, cette faute, on ne saurait pas jusqu'où peuvent aller l'amour et la fidélité de Dieu. Parce que c'est quand même le péché sur la croix qui nous révèle jusqu'où va l'amour de Dieu. Et sur la croix, Jésus donne sa vie pour nous, son amour va jusqu'au bout, au-delà de tout ce qu'on aurait pu demander et concevoir. Il meurt pour nous et il meurt pour nos péchés. Deux formules qu'on retrouve répétées sans cesse dans l'Écriture et dans les premiers credos. Pour nous, ça veut dire, c'est pas le même sens dans les deux cas de pour. Pour nous, pour notre vie, pour notre salut, en notre faveur, et pour nos péchés, en raison de nos péchés, à cause de nos péchés. Et il meurt aussi avec cette phrase, pardonne-leur. En fait, qu'est-ce qui se passe en Jésus? D'abord, on voit que Dieu va jusqu'au bout, et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que en Jésus, par Jésus, le chemin est refait à l'envers, par lequel on s'était mis à distance. Le péché, c'est l'éloignement de Dieu, mais Jésus, lui, il est tout entier mouvement vers le Père, tout entier uni au Père. Et en lui, dans sa vie, toute distance est désormais abolie. Il accomplit, en fait, dans sa vie, dans sa personne, et pour nous, la conversion de l'homme à Dieu. Et c'est comme ça qu'il nous rétablit dans l'Alliance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur le ressuscite. Et sa résurrection ouvre un monde nouveau où la mort et le péché n'ont plus le dernier mot. Alors ça, c'est quelque chose, on va aller faire un tour vers l'évangile de Jean. C'est quelque chose qu'on voit très bien à la fin de l'évangile de Jean. Au chapitre 20, c'est quasiment à la fin, parce qu'après, il y a encore un petit chapitre, au chapitre 21, mais c'est une addition postérieure. Au chapitre 20, on a un petit récit qu'on appelle la Pentecôte johannique. Alors, voilà. On l'appelle la Pentecôte johannique pour la distinguer d'un autre récit de la Pentecôte qui est fait par Luc dans les Actes des Apôtres. Alors, comment il s'y prend, Jean, pour raconter cette Pentecôte johannique? Ben, il nous dit qu'au matin de Pâques, Marie de Magdala va au tombeau, elle voit qu'il est vide. Et le soir de ce même jour, il nous dit, ben, Jésus rejoint les disciples qui s'étaient enfermés dans la maison. Il leur dit, la paix soit avec vous, ce qui est déjà une parole de l'ordre d'un salut. Et puis, le même jour, il souffle sur eux pour leur communiquer l'esprit. Je cite, « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est que les deux fruits de la résurrection, le don de l'Esprit et le pardon des péchés. Je vous rappelle, on est dans une rubrique sur le pardon. Pardonner les péchés, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que pardonner les péchés dans la Bible, c'est le privilège par excellence de Dieu. Que ce pouvoir soit donné aux disciples, c'est quelque chose qui est absolument inouï. Ce moment de Jean, de la Pentecôte, c'est vraiment le moment que beaucoup de chrétiens, de théologiens ont considéré comme le moment de la fondation de l'Église. Parce qu'on entre dans un temps nouveau. On est dans une nouvelle création qui est inaugurée par la résurrection de Jésus, et où la mort et le péché n'ont plus le dernier mot. C'est ça ce que j'ai envie de dire. Le mal est vaincu sous la forme du péché, ici, par le pardon des péchés, comme il l'a été à la résurrection sous la forme de la mort. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il concentre tout le mystère pascal. Donc j'englobe dans le mystère pascal la mort de Jésus, sa résurrection, les apparitions de Jésus ressuscité aux apôtres, le don de l'Esprit à l'intérieur d'une seule semaine. Une semaine qui rappelle celle de la dernière création. Luc va pas faire ça. Luc, il va faire différemment. Il va séquencer. Donc, on pourrait repérer les différentes étapes. Marie de Magdala au tombeau. Le même jour, Jésus qui vient enfermé dans la maison. Des apparitions. 8 jours plus tard, l'apparition à Thomas et aux disciples. Et là, terminé. Luc fait différemment, lui. Il va séquencer les mêmes événements, mais il va le faire, si on suivait la résurrection, il va le faire sur la base des fêtes juives. C'est-à-dire qu'il va placer le don de l'Esprit, et donc la constitution de la première communauté, à la Pentecôte. Et chez les Juifs, la Pentecôte, c'était une célébration, une fête, qui était célébrée 50 jours après Pâques. Et cette fête, elle commémorait le don de l'Alliance au Sinaï. L'Alliance nouée entre le peuple et Dieu au Sinaï. Vous remarquez que la Pentecôte de Luc, c'est ce qu'on fait dans notre liturgie. La fête de la Pentecôte, chez nous, elle a lieu 50 jours après Pâques. Et c'est à ce moment-là que se termine le temps pascal. Mais chez Jean, c'est pas ça. Tout est présenté dans le cadre d'une semaine. Alors, il raconte pas les choses de la même manière. C'est une erreur, c'est un hasard. Mais évidemment que non, c'est qu'il y a une intention théologique derrière. Et chez Jean, l'intention théologique derrière ce procédé, c'est de dire, on est dans une semaine inaugurale d'un nouveau monde. Parce que cette semaine, elle nous rappelle quoi? Elle nous rappelle la première semaine de la création. Il y a eu la première semaine de la création, qui est symbolique, hein, évidemment. On n'est pas dans quelque chose de vain déroulé historique. Et Jean concentre tous ces événements de l'après-résurrection, de la résurrection et de l'après-résurrection, dans une nouvelle semaine qui inaugure une nouvelle création, un temps nouveau. Et donc, ce que nous dit Jean, c'est que désormais, on vit sous le régime de la résurrection, du pardon, de la recréation. C'est un temps nouveau. Alors, la vie ici-bas, elle n'est pas simple. On reçoit des coups, on commet des fautes. Ça ne sera pas oublié, ça ne sera pas effacé, mais ça sera pardonné. Ça sera guéri, pardonné. Notre vie porte la marque du péché et de la mort, mais vaincue. Surmonter. Ça, c'est vraiment important de se dire que quand on est restauré, on garde la trace de ce qu'on a vécu, de nos épreuves, de ce qui nous a abîmés. Mais c'est pardonné, c'est transfiguré. Je donne une image, c'est le paralytique à Capharnaüm. Jésus le guérit. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Il lui dit pas, laisse ton brancard terminé, puis passe à autre chose. Sauf que le paralytique, il repart avec son brancard, mais il le porte pas de la même manière que quand il était arrivé. Autre exemple, les plaies du Christ. Est-ce que Jésus ressuscité, quand il se présente, manifeste aux disciples, c'est sans ses plaies? Pas du tout. Il dit à Thomas, mets ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans ton côté. Donc, c'est bien les mêmes plaies du Christ. Et la liturgie chrétienne, ces plaies, elle les appelle les plaies glorieuses. C'est transfiguré. C'est pas effacé. C'est pas oublié. C'est pardonné. C'est transfiguré. Donc, je résume. Tout ce pardon divin dont on parle depuis tout à l'heure, vraiment, je crois qu'il ne faut pas le prendre comme un événement accidentel parmi d'autres. Un événement qui viendrait parfois, de temps en temps, changer quelque chose à nos vies. Et on sait très bien que dans la vie, les pardons, les réconciliations, c'est des étapes qui sont très importantes. C'est des étapes qui nous restaurent. On a tous reçu des pardons. On a tous donné des pardons. On a tous appris. C'était important de pardonner. Mais le pardon dont on parle ici, dans cette idée de salut, c'est pas un pardon dans une succession de pardons. C'est Dieu qui aime en dépit de tout. Et ça, c'est notre salut. Ça, c'est le pardon dans sa profondeur. Alors, Marie-Pierre, tu disais la semaine dernière, pourquoi est-ce que quand on commence la liturgie pénitentielle, on commence déjà par se reconnaître pécheur, etc. Voilà, ras-le-bol. Bon. Eh ben, vraiment, je crois que c'est pas pour se culpabiliser ou se mortifier ou par commencer par reconnaître la mauvaise image qu'on a de soi. Je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Je crois que c'est d'emblée se mettre dans ce régime du don qui va au-delà de tout don et qui nous recrée quoi qu'il puisse arriver. Je crois que la liturgie, c'est à ça qu'elle nous invite et que c'est une attitude très juste parce que de fait, on a besoin que l'amour de Dieu aille jusqu'au bout. Et ça, quand on commence par ça, quand on commence par se mettre sous ce pardon de Dieu, on s'inscrit là-dedans. Et j'ajouterais, donc, vous voyez, la liturgie, pour ça, elle nous enseigne beaucoup. Et je pense aussi que, il faut dire, c'est que ce chemin qu'on a rempli, pardon de Dieu pour nous, c'est aussi le chemin qu'on a emprunté avec les autres. C'est même le seul chemin qui compte. Parfois, nous paraît insurmontable, mais aimer en dépit de tout. Dans l'évangile, on a « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux ». Ça, c'est dans Luc. Matthieu dit la même chose avec le mot « parfait ».« Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait ». Perfection divine, miséricorde, tout ça, c'est la même chose, c'est à ça qu'on est appelé. Parce que, pourquoi? Pourquoi c'est notre chemin? Parce que le pardon, c'est ce qui rouvre un avenir. C'est ce qui rend possible un avenir commun. C'est ce qui refuse la logique de mort, qui casse un cercle infernal, qui est celui de la vengeance qui appelle la vengeance, du mal, de la haine qui appelle le mal et la haine. En fait, un pardon, ça relance l'histoire. Tout simplement parce qu'il dit, l'homme n'est plus lié par son passé, il n'est plus retenu par son péché. Il peut y avoir du nouveau. Donc, on ne dira jamais assez la nécessité du pardon. En fait, un pardon, c'est un acte de confiance, un geste de confiance à l'égard d'un être humain. C'est lui redonner toutes ses chances de vie, c'est le libérer, lui permettre de renaître, de naître à une vie nouvelle. Pensez à Zachée, à quel point le pardon de Jésus va renouveler sa vie. Pensez à la femme adultère. Voilà, c'est un chemin de salut. Et le pardon que nous, on donne comme humains, il est à l'image du pardon divin. Alors évidemment, avec la distance qu'introduit le mot d'image, mais c'est un peu de la même nature. Nous aussi, on est appelés à nous donner dans la relation jusqu'au bout. Voilà pour le pardon. Donc le don par excellence, qui est vraiment à la racine du salut. Alors, vous me direz évidemment, dans certains cas, le pardon apparaît impossible. On dit que c'est notre chemin. Pas si facile. Oh, attendez, excusez-moi. Je fais des bêtises. Voilà. paraît certains cas, il paraît dans certains cas impossible, et on se dit il y a des choses qui semblent absolument impardonnables. Et c'est vrai. Et en même temps, faut tenir qu'il y a aussi des gens qui ont pardonné, croyants ou pas d'ailleurs. Alors je vais vous donner deux exemples. Elle, c'est Maïti Girtaner. Maïti Girtaner, elle est morte maintenant. C'est vraiment une grande figure de la résistance. Elle était jeune à l'époque, pendant la guerre. Elle est morte en 2014. C'était une laïque dominicaine et elle a été vraiment torturée sauvagement et par son bourreau, par un jeune bourreau, qui a vraiment tout fait pour la faire souffrir le plus possible et qu'elle en garde les traces indéfiniment. Donc, elle était une grande pianiste, elle a dû renoncer à ça, et elle a souffert absolument toute sa vie parce qu'il s'est attaqué à ses nerfs, en fait. Je trouve que son bourreau, n'avait jamais rien dit de ses actes à sa famille, à lui. Et puis, il apprend qu'il va bientôt mourir, qu'il est atteint d'une maladie incurable, et à ce moment-là, il est pris d'un sentiment de culpabilité qui est insupportable pour lui, et il va lui demander de le rencontrer. Et elle va accepter. Et en fait, il s'aperçoit, quand il va aller la voir, que le pardon lui était déjà acquis. Elle souhaitait pouvoir pardonner et elle avait déjà fait le cheminement. Alors, est-ce que tout le monde en est capable? Ce n'est pas la même chose. Mais ce que ça nous dit, c'est que pour elle, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et c'est que ce pardon qui est notre chemin, c'est un processus, c'est une maturation. C'est un acte libre. Alors, les croyants, ils verront peut-être l'œuvre de la grâce de Dieu. Et c'est vrai que je pense que le pardon est de l'ordre d'une grâce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le pardon que la volonté humaine, parfois, ne peut pas atteindre, même s'il y a vouloir, on voudrait, mais que parfois, on n'y arrive pas. Et là, je vais vous donner un exemple en contrepoint. C'est lui. C'est Vladimir Jankélévitch. Il y a beaucoup écrit sur le pardon. Et il se trouve que longtemps après la guerre, 35 ans après la guerre, il persistait et il affirmait très clairement son refus de pardonner aux responsables de la Shoah, à tel point qu'il avait décidé de ne plus parler allemand, de bannir à tout jamais l'Allemagne de sa vie. Et puis il participe à une émission en France où il explique ça. Et il y a un jeune Allemand qui décide d'obtenir ce pardon. Donc, il va écrire à Vladimir Jankélévitch en lui expliquant combien il souffrait de ce qu'avait fait son pays, qu'il ne niait absolument rien des abominations qui avaient été commises, et il suppliait le philosophe de venir lui rendre visite. Et contre toute attente, Jankélévitch va lui répondre et va l'inviter à son tour à le visiter. Et je vais vous lire cette lettre, un bout de cette lettre, une petite lettre. Cher monsieur, je suis ému par votre lettre. J'ai attendu cette lettre pendant 35 ans. Je veux dire une lettre dans laquelle l'abomination est pleinement assumée et par quelqu'un qui n'y est pour rien. C'est la première fois que je reçois une lettre d'Allemand, une lettre qui ne soit pas d'auto-justification plus ou moins déguisée. Vous seul, vous le premier et sans doute le dernier, avez trouvé les mots nécessaires en dehors de rabotages politiques et de pieuses formules toutes faites. Je fais des coupures. Non, je n'irai pas vous voir en Allemagne. Je n'irai pas jusque-là. Je suis trop vieux pour inaugurer cette ère nouvelle. Car c'est tout de même pour moi une ère nouvelle. Trop longtemps attendue. Mais vous qui êtes jeune, vous n'avez pas les mêmes raisons que moi. Vous n'avez pas cette barrière infranchissable à franchir. À mon tour de vous dire, quand vous viendrez à Paris, comme tout le monde, sonnez chez moi, un quai aux fleurs près de Notre-Dame. Vous serez reçu avec gratitude et émotion, comme le messager du printemps. Nous ne parlerons pas de l'horreur, nous nous mettrons au piano, à vous en toute sympathie. Je termine avec celui-là, parce que je trouve que dans cette lettre, il y a des choses qu'on retrouve de tout ce qu'on a dit, ce pardon infranchissable, le processus qui se fait avec le temps, lui, ça lui est arrivé par ce qui a fait peut-être basculer, c'est les mots de cet Allemand. Et puis, vous voyez, c'est le mot de ère nouvelle, recréation, temps nouveau, qu'on retrouve la même idée. Voilà.
Aude, si je peux me permettre, ce que j'entends, Aude,
oui.
Ce que j'entends, en fait, c'est à chaque fois deux personnes qui ont demandé pardon, en fait. Le bourreau et d'une certaine manière, cet Allemand.
Oui. L'Allemand, il voulait obtenir le pardon de Vladimir, comme Jankélévitch, oui.
Alors, donc, il le demande.
Oui, oui. Et alors, en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, à un moment, le pardon a été reçu. Mais par exemple, dans le cas de Vladimir, de Mighty Gertaner, quand Léo, le fameux bourreau, est allé venir la voir, il s'est aperçu que c'était déjà fait. Elle, elle avait déjà pardonné, avant même qu'il lui demande. Dans son cœur, c'était fait. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant parce que dans tout ce qu'on a dit là, on a parlé beaucoup du pardon comme d'une renaissance, quelque chose qui rouvre un avenir, notamment en parlant de celui qui va recevoir ce pardon. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que cette vie nouvelle, elle naît aussi pour celui qui donne le pardon. Parce que donner un pardon, c'est aussi une forme de libération de ce point de vue-là, c'est-à-dire à un moment accepter de ne pas s'enfermer dans une haine qui est dévastatrice en fait, et qui vous empêche de vivre aussi. Et c'est pour ça que Maïté Gertaner, bon, probablement quand elle a eu cette rencontre, ça devait être extrêmement éprouvant, mais elle avait déjà fait le chemin. Et lui, il l'a fait, 30 ans après en fait, beaucoup plus tard. Et quand on dit que pardon, il est à la racine de tout, le pardon de Dieu, c'est que ce pardon, quand je vous dis qu'il englobait déjà le risque de la création, il est déjà donné. Le risque de la création, il a été pris en sachant même que tout ne serait pas rose. Et pourquoi ça ne serait pas rose? Parce qu'il nous a créés libres, donc avec fondamentalement une possibilité de recul, de se détourner.
Donc, tu dis que le pardon est déjà donné, même s'il n'est pas demandé.
Le pardon est déjà offert. Ouais, le pardon est déjà offert, il est déjà donné. Et après, je pense que pour qu'il soit pleinement
reçu,
c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. Et que là, il faut qu'il y ait ce mouvement d'accepter, de consentir à ce pardon.
Si
on... C'est souvent un repentir. Déjà, c'est-à-dire la conscience de. Mais c'est. Tu vas voir, je pense que ça va s'éclairer quand on va parler du fils prodigue. On va voir là tout de suite. Parce que le fils prodigue, je pense qu'il a conscience de sa faute à la lumière du pardon. Et que quand il rentre vers son. Quand il revient vers son père, il n'a pas conscience d'avoir fauté. Il cherche à bouffer, en fait. Oui, alors. Allez-y, Catherine.
Oui. Pour moi, il y a deux niveaux du pardon. Quand Dieu nous pardonne, on est deux aussi.
Oui.
Mais son pardon arrive avant que nous le lui demandions, sans doute.
Oui, c'est ça.
Comme pour ces gens-là. Oui. Par contre, entre deux humains, le pardon n'est pas très souvent donné avant la demande, hormis les deux exemples que vous nous avez donnés là. Le pardon ordinaire entre deux personnes, il se donne et se reçoit sans doute en même temps le plus souvent.
Je ne sais pas s'il y a une règle. Je reprends l'analogie de tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, avec les gens qui nous sont les plus chers, parfois, il n'y a pas un pardon qui est donné d'avance?
Ah si, en tant que parent, le pardon est donné.
Ben voilà. Voilà.
Et très souvent, les enfants n'en ont même pas conscience.
Et ben voilà. Exactement. Ben, c'est exactement ce que je vais dire.
La blessure dure.
C'est pas. Voilà. La blessure, c'est jamais un oubli ou un effacement. Jamais. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de transfigurer.
Et la blessure reste, la cicatrice est là, mais elle n'est plus douloureuse, je dirais. Ou elle est moins douloureuse.
Ou alors on pourrait dire elle permet d'avancer malgré tout.
Voilà.
Alors, je suis bien embêtée parce que j'arrive plus.
Aude, si je peux me permettre, avec un contre-exemple, je ne sais pas, tu vas me dire.
Ouais.
Et, Lumière du soleil, Simon Wiesenthal.
Ah ben oui,
le soleil.
J'en ai parlé à 2 heures. Tu vois, j'en ai parlé à 2 heures, Simon Wiesenthal. Voilà. Exactement.
Et donc, contre-exemple, parce que lui, il n'a pas pu. Enfin, le fameux SS a voulu. avoir le pardon.
Alors, je vous dis en deux mots,
vous ne pouvez pas parler au nom de tous les Juifs.
Absolument. Alors, ouais, mais c'est la deuxième partie du livre, Marie-Pierre.
Oui.
Alors, Les fleurs de soleil de Simon Wiesenthal.
Oui, remarquable.
Remarquable, ouais, cette pièce.
C'est un bon livre. Et alors, elle s'est donnée au théâtre cette année avec Thierry Lhermitte.
Ah, oui.
Moi, je l'ai vu, Thierry Lhermitte. Mais elle ne se termine pas. C'est-à-dire que toute la pièce, finalement, demande au spectateur ou fait réfléchir le spectateur pour savoir un peu ce qu'il aurait fait lui.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Pour vous dire en deux mots, c'est un nazi qui est en train de mourir de ses blessures et vraiment à l'article de la mort. Et dans le camp où il est, il demande à un juif, mais pris au hasard, et ça tombe sur Simon Wiesenthal, il le fait appeler par une infirmière et il lui demande de le pardonner parce que à ce moment de son agonie, l'idée de mourir avec tout ce qu'il a commis lui est insupportable. Et Simon Wiesenthal, qui est à côté de lui, le nazi va essayer de lui prendre la main, c'est un jeune homme, etc. Et Simon Wiesenthal retire sa main et s'en va et ne lui donne pas le pardon. Donc c'est quelque chose qui va le poursuivre, et c'est une histoire vraie. Et ensuite, il va demander, beaucoup plus tard, à un certain nombre d'autorités, on pourrait dire morales, ou de grandes figures, il va leur envoyer cette lettre, leur raconter son histoire, en leur demandant est-ce qu'il a eu raison de ne pas pardonner ou est-ce qu'il aurait dû pardonner. Et il explique pourquoi il ne l'a pas fait. Ce qui est très intéressant, donc vous avez les réponses des uns et des autres, ce n'est pas un très gros livre, vous avez les réponses des uns et des autres à ce qui ne sont pas simplement des figures religieuses. Hein.
Ah non.
Ouais. Et bien, la plupart disent qu'ils n'auraient pas dû pardonner. Et très intéressant de voir les motifs qui ne sont pas les mêmes pour chacun. Ah. Et bien, il y en a une, il y en a peut-être d'autres, mais moi, je me souviens de celle-là. Celle qui dit que peut-être il aurait pu pardonner sans se prononcer vraiment, c'est Simone Veil. Et qui dit, parce que dans cet état dans lequel on était, de totale déshumanisation dans lequel on voulait nous mettre, peut-être que la dernière chose qui nous permettait de rester humain, c'était cette capacité à pardonner envers et contre tout. Et donc, elle laisse la porte ouverte, alors que les autres disent non, il n'avait pas le droit de pardonner au nom de gens qui sont morts, c'est qu'on peut d'accorder leur pardon. Non, il n'a pas le droit, au nom de quoi est-ce qu'il représenterait un peuple collectif. Un pardon, c'est quelque chose qui se donne individuellement, etc., sans repentir, etc. Ouais. Vous voyez, donc c'est très intéressant.
Très intéressant.
La pièce est fantastique.
Donc voilà, et le bouquin est pas mal, mais après, je me suis aperçue que Simon Wiesenthal, c'était pas quelqu'un de si fantastique que ça.
Bon, t'as lu d'autres livres de lui ?
Non, j'ai lu des articles, etc. Et alors, je me souviens plus très bien, mais le livre est bien quand même.
Après, bon, l'idée, quoi, voilà.
Ouais, voilà. Alors, je vous propose de passer à une deuxième catégorie. Donc, la catégorie du pardon, on commence par ça parce qu'en fait, voilà, c'est à la racine de tout parce que c'est le don qui est déjà donné, en fait. Au moment même de nous appeler à l'existence, il était déjà donné. Et j'en viens à une deuxième catégorie, mais ne croyez pas qu'elle soit séparée, en fait. Vous allez voir que toutes ces catégories, elles sont complètement imbriquées. Puisqu'on dit que le pardon, c'est une renaissance, c'est donner la possibilité d'entrer dans une vie nouvelle, eh ben, cette nouvelle vie, la Bible l'a qualifiée comment ? Elle l'a qualifiée de vie filiale. Et c'est ça que je voudrais un peu expliciter. C'est-à-dire que dans ce pardon qui est donné et reçu, là, pour le coup, qui correspond à un mouvement de l'homme, qui rejoint un mouvement de l'homme aussi, ce qui va se passer, c'est que l'homme va découvrir le vrai visage de Dieu. Et ce visage de Dieu, c'est celui d'un père. Et lui-même va se découvrir fils, appelé à une vie filiale. Et il va découvrir que sa juste place comme homme, c'est vraiment celle-là. Sa juste relation à Dieu, c'est celle-là, de peut-être se comprendre désormais comme fils. Donc, vous voyez, dans un pardon qui est reçu et donné, s'instaurent en fait des relations nouvelles avec Dieu et puis avec les autres aussi, parce que cette vie filiale, elle comporte évidemment une dimension fraternelle, puisque fils d'un même père, en fait. Si vous y pensez, la théologie du baptême n'est pas autre chose. Pour vous, pourquoi est-ce qu'on donne le baptême ?
Pour devenir enfant de Dieu.
Pour devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient d'autres réponses ?
Officiellement pour laver du péché originel.
Pour laver du péché.
Pour participer à la mort et à la résurrection du Christ.
Participer à la mort et la résurrection. Donc, quand on dit participer à la mort et la résurrection, on est bien tenté d'une nouvelle nouvelle, parce qu'on est résurrection. Voilà. Mourir à quelque chose pour entrer dans la résurrection, pour entrer dans une nouvelle nouvelle. Ben, vous avez dit tout à fait les deux aspects. On dirait à la fois, et c'est vrai, on l'a souvent dit, donner pour le pardon des péchés, la rémission des péchés. Et puis, c'est aussi entrer dans une vie nouvelle qui est celle des enfants de Dieu. Alors, hop, repartage. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est que l'eau, le geste de l'eau, c'est que dans tous les sacrements, il y a une parole et un geste. Et c'est souvent avec des éléments qui sont très simples. Le pain, le vin, l'eau, etc. Eh bien, la polyvalence du symbolisme de l'eau est absolument formidable parce qu'elle permet de tout exprimer. L'eau, c'est l'eau qui lave et qui purifie, purification des péchés. Et puis, c'est aussi l'eau qui est symbole de mort, l'eau qui engloutit, qui ravage, qui détruit, l'eau qui engloutit dans la mort. Mais c'est aussi l'eau qui fait vivre, l'eau qui est la source de la vie, qui permet la vie. Donc, ce geste de l'eau, vous voyez là, il y a à la fois la purification du péché et, comme vous disiez, Anne, une plongée dans la mort du Christ avec elle, avec lequel on est enseveli pour mourir au péché et avec lequel on renaît à une vie nouvelle. Donc, victorieux du péché, ce péché qui nous éloigne de Dieu, et donc rétabli dans notre relation à Dieu, on est à la vie des enfants de Dieu. Et cette entrée dans une vie filiale, dans une vie avec le Père, avec Dieu reconnu comme Père, et le pardon des péchés, ce sont deux choses qui sont extrêmement liées, intimement liées. Et ça, on le voit très très bien dans les évangiles. Je vous donne par exemple trois éclairages dans les évangiles. Dans les dernières paroles de Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il dit ? Vous vous rappelez ?
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Père, vie filiale, Jésus qui se place vraiment comme fils, pardonne-leur. Le pardon au cœur de ces dernières paroles. En Luc 15, la parole du fils prodigue, et on va vraiment développer tout à l'heure. Là, c'est complètement évident. Un père avait deux fils, mais à quel moment est-ce que le cadet va découvrir vraiment son père comme père? Et à quel moment est-ce qu'il se découvre lui-même véritablement comme fils?
Quand il dit « je ne suis pas digne
», c'est quand il revient à la maison. Ce n'était pas quand il y était, c'est quand il revient à la maison, c'est dans les bras du père, devant la joie du père, devant le pardon qui était déjà donné du père, à la lumière de ce pardon offert qui va se découvrir vraiment comme fils, qui va vraiment découvrir sa condition en profondeur de fils. Autre manifestation, dans le sermon sur la montagne. Donc là, Matthieu, c'est un long discours de Jésus, il prend trois chapitres, Matthieu 5, chapitre 5 à 7, et ce discours qui commence par les béatitudes, heureux, heureux, heureux. Bah, dans ce discours, vous avez 17 fois le mot de père. Jésus va dire « mon père, notre père, et puis surtout votre père ». Et qu'est-ce qu'on a au cœur de ce discours? La prière du Notre Père. Et qu'est-ce qu'on a au cœur du Notre Père?
Le pardon. Pardonne-leur.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une demande qui est enchâssée dans le discours du Notre Père, qui est lui-même enchâssée dans ce discours où il est tout le temps question de Père. Alors cette demande, ben, on a souvent du mal à l'interpréter. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le problème, la difficulté, c'est le petit mot « comme ». Alors, déjà, ne croyons pas que le fait que nous pardonnions soit une condition au pardon de Dieu. Comme nous pardonnons, pardonne-nous. Il peut très bien arriver qu'on demande le pardon de Dieu sans parvenir soi-même à pardonner. Et ne pas arriver à pardonner signifie pas qu'on doive renoncer au pardon de Dieu ou à demander à Dieu de nous pardonner. Cette phrase, elle signifie plutôt « pardonne-nous comme nous aussi nous allons le faire ». Parce que nous acceptons de nous inscrire dans cette dynamique de pardon à la suite de ce Dieu Père qui pardonne et qui est le premier à pardonner, en espérant qu'on y arrivera, nous aussi, à nous y mettre. C'est reconnaître que le pardon est notre chemin. Mais si on n'a aucun désir de rentrer dans cette logique divine du pardon, si notre refus est absolument total, si on n'essaye pas, à la mesure de ses moyens, d'avancer un tant soit peu sur cette voie, alors quel sens ça peut avoir de demander à Dieu de nous pardonner?
D'ailleurs, on devrait dire le Notre Père à l'envers.
Ouais.
Ça a beaucoup plus de sens.
C'est très, Bon, on ne va pas recommencer, on ne va pas changer la liturgie.
Mais ouais, c'est bah si, ce serait pas mal.
Parce qu'en fait, on n'est pas habitué. Mais allez chercher sur Internet le Notre Père à l'envers.
Bien meilleur.
C'est hyper intéressant. Ouais, mais c'est vachement meilleur parce qu'on n'est pas habitué. Alors, on le regarde d'un œil complètement neuf. Mais allez voir, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu as en tête ce qu'on dit dans le Notre Père à l'envers.
Mais on finit par Notre Père, justement.
Oui.
Forcément, c'est des je le remonte, moi.
Ah non, moi, ce n'est pas ça. C'est le Notre Père dit du côté de Dieu qui parle, au lieu de parlons à notre Père. Exactement tous les mêmes items, mais du point de vue de Dieu. Ça, c'est vraiment…
Et tu essaieras aussi à remonter, tu pars du mal, des offenses, pour finalement découvrir qu'il est Père.
D'accord. Donc, là où tu as tout à fait raison, parce que c'est là que je voulais en venir, c'est que nous, on est habitué à reconnaître Dieu comme Père, comme chrétien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est à quel point ce type de relation ne va pas de soi et que c'est complètement inouï. Si vous regardez l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a très, très peu de désignation de Dieu comme Père. L'Ancien Testament, hein, ouvrez une Bible, hein, c'est les 4 cinquièmes, 9 dixièmes de la Bible. Je crois qu'il y a 20 fois Dieu comme Père. Vous avez plein d'images pour parler de lui. Le rempart, le rocher, la citadelle, la forteresse, le refuge, le roi, l'époux, le berger. Parfois même, il a des traits de mer. Mais le terme de Père, moins de 20 fois dans tout l'Ancien Testament. Et en particulier, absolument rien, je vais arrêter le partage, absolument rien dans les récits de création. Alors que là, création, on fait, on engendre, on aurait pu attendre ce mot de Père. Il n'y est pas. C'est pas anodin. C'est qu'en tout cas, quand on va comprendre ce mot de Père, c'est pas d'abord sous cet angle de la génération qu'il faut le comprendre. La paternité de Dieu, donc c'est pas tellement dans l'Ancien Testament, même si ça existe un petit peu, mais de manière quasi insignifiante, c'est vraiment la grande révélation que nous apporte Jésus. Parce que dans les évangiles, à chaque fois qu'il parle à son Père, s'adresse quasiment toujours à lui, à Dieu, s'adresse toujours à lui quasiment comme à son Père. Et vous prenez juste l'évangile de Saint Jean, mais c'est celui où c'est le plus visible. Et un peu plus de retenue dans les synoptiques, dans l'évangile de d'une centaine de fois. Et parfois même, je vais même encore plus loin, sur le mode de l'intimité, quand il s'adresse à son père, sous le mode de le nom de Abba. Abba, ça veut dire papa, ou cher père. Et cette invocation-là, elle est complètement insolite. Et dans toute la littérature juive, elle est sans aucun parallèle. Donc, c'est une figure qui nous est transmise par Jésus, cette figure de la paternité. Et donc, on peut pas la mettre entre parenthèses. C'est pas évident, parce que je vous dis, ça va pas de soi. D'abord, parce que cette figure d'un Dieu qui serait père a été par ailleurs très sévèrement critiquée, notamment par Freud. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, c'est une représentation qui a été suscitée tout simplement par quoi? Par notre effrayante impression de désarroi devant la vie. Et du coup, on se raccroche à cette idée d'un Dieu père qui nous protégerait ou qui baliserait le chemin ou qui nous protégerait. C'est inventer une illusion pour répondre à notre désir de protection. Et c'est pas que, ça a été répandu, hein, cette idée. Et puis, la deuxième idée pour laquelle ça va pas de soi, c'est tout simplement, il y a un certain nombre de personnes qui ont une expérience de la paternité qui est franchement pas positive dans leur propre vie. Et que du coup, cette nomination, elle porte à faux. Et pourtant, on veut pas la lâcher. Donc, il faut la dire tout de suite quelque chose, c'est que cette formule, elle est analogique. Donc, déjà expliqué tout ce qu'analogique, ça veut dire qu'il y a une ressemblance sur un fond de plus grande dissemblance. Donc, ça veut dire Dieu est père, comme tous les pères de la terre, mais tout de suite il faut nier et dire il est père d'une manière qu'on ne saurait dire, ni affirmativement, ni négativement. Elle est au-delà. Donc tout ça pour dire figure transmise par Jésus, une figure qu'on ne peut pas mettre de côté, à tel point que je dirais que pouvoir nommer Dieu comme Père, pour nous, c'est le don ultime. C'est une audace absolument incroyable qui est rendue possible par quoi? Par le don de l'Esprit à la Pentecôte. Elle est tout simplement possible parce qu'après la résurrection, un temps nouveau a commencé. Alors voilà ce que dit Galates, la lettre aux Galates de Saint Paul. Comment est-ce que je repartage? Voilà. Lettre aux Galates, et nous de même, Quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves. Essayez de repérer le parallèle, le antithétique. Mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi. Libération, hein, réparation du péché, etc. Pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptés. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père, tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. » C'est l'œuvre de Dieu, vous hein, voyez, c'est l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Voilà, deux grands textes, Galates et Romains 8, que je viens de vous citer là, où vous voyez développer chez Paul ce thème de l'adoption filiale. Alors, cette adresse qu'on trouve en Galates, qu'on trouve en Romains, cette adresse à Dieu comme Père, on pourrait dire qu'elle est prophétique. Je veux dire par là, elle est tournée vers l'avenir, plus que vers l'origine. C'est une désignation qui regarde en avant, vers un accomplissement, en direction d'une nouvelle intimité sur le modèle de Jésus, d'une connaissance de Dieu semblable à celle qu'en a Jésus. Et que la vraie filiation, c'est pas une question d'origine, c'est pas une affaire d'origine au sens de génération, je suis fils parce que je suis né de, etc. Que la vraie filiation, elle est au terme d'une histoire, de notre histoire, comme la vraie paternité n'est pas affaire d'engendrement, de nature, mais de désignation. Pour le dire autrement, paternité, filiation, c'est de l'ordre d'une reconnaissance mutuelle entre l'homme et Dieu. Et cette reconnaissance, elle se fait au bout d'un chemin. Je te reconnais comme fils, je te reconnais comme père. Et ça, c'est là, à nouveau encore déjà une vérité humaine. Qui pour un enfant est le vrai père? Eh bien, c'est celui qui va reconnaître son fils, qui va lui donner un nom, qui va l'inscrire dans sa lignée, qui va l'éduquer, l'aimer, qui va prendre soin de lui. Et que pour être père, il ne suffit pas d'être le géniteur. Il y a des géniteurs qui ne sont pas des pères. Et il y a des vrais pères qui ne sont pas les géniteurs. Et il y a des pères adoptifs qui, évidemment, possèdent la dignité de père en plénitude absolue. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris en charge cette vie qui leur était confiée. Et parce qu'il y a eu reconnaissance mutuelle. Tu es mon fils, tu es mon père. Réfléchissez à ce que dit Marie. Vous connaissez l'épisode de Jésus qui est perdu, qui est resté dans le temple et les parents le cherchent 3 jours et ils finissent par le retrouver. Vous vous souvenez de ce que dit Marie quand elle retrouve Jésus?
Mon fils, comment nous as-tu fait cela? Nous nous sommes inquiétés, ton père et moi.
Et ben voilà.
Quelque chose comme ça.
Ton père et moi, nous te cherchions. Mmh. Elle ne dit pas, monsieur Joseph qui veut bien t'élever. Elle dit ton père. Parce que si Joseph n'est pas le géniteur de Jésus, il est vraiment son père terrestre, celui qui a pris les choses en main. C'est la même idée que je veux vous dire. Et ben pour nous aussi, c'est au terme que Dieu se révèle père. On va vers le père. Et il nous sera donné, c'est ça l'idée de salut, hein, et il nous sera donné d'entrer pleinement dans cette vie filiale, d'entrer pleinement dans l'intimité du père et du fils. Et ça, c'est de l'ordre d'un seul. Dieu veut faire de nous des fils. C'est notre vocation. Et si la vraie filiation, elle est au terme, alors la vie ne va plus vers la mort. Elle va vers la vie. Et pour terminer là-dessus, je vais vous livrer toute méditation, puis après, je vous donnerai vos questions. Je vais vous donner une petite méditation sur le tableau justement du fils prodigue de Rembrandt. Le père Baudiquet, c'était lui hein, qui m'inspire, disait que ce que Rembrandt lui donnait à voir n'avait jamais cessé de l'aider à vivre. Et pour le coup, je crois vraiment ce tableau, il nous aide à comprendre quelque chose de cette idée de vie filiale, de paternité de Dieu qui est de l'ordre d'un seul. Donc, c'est une de ses dernières œuvres, donc peinte vers 766-769. Un tableau immense qui est au musée de l'Ermitage. Je l'ai vu, c'est incroyable, surtout de la manière dont il est situé. Et donc, c'est l'histoire du père prodigue, la parabole de Luc 15. Donc, deux visages, celui d'un père et celui d'un fils, conjuguant, je cite Baudiquet, à pleine main, à plein corps, à plein cœur, détresse et compassion, misère et miséricorde. Un père et un fils, et en fait, Dieu et chacun de nous. Le père est debout, immense, indestructible et pourtant vulnérable. Car en effet, peut-on aimer sans en être blessé ? Merveilleuse fragilité née de l'attente éperdue du Fils, de la non-possession. Son visage, raviné, ravagé, décanté, transfiguré. Ses mains, une main d'homme et une main de femme, des mains de tendresse qui abritent et qui restaurent. Et le Fils, agenouillé, précipité à l'intérieur du Père, nous sommes au seuil d'une naissance. Ce Fils est en train de naître, de renaître d'après la parabole. Je cite, « Car mon Fils que voici était mort et revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Quelque chose s'inaugure. Sans doute, jusque-là n'avait-il été qu'un esclave, incapable de vivre la relation au Père autrement que comme une servitude. Et le voilà en train d'entendre la voix muette des entrailles dont il s'est détourné, qui n'ont jamais cessé de l'appeler, et qui l'acheminent à devenir librement ce qu'il est en réalité, un fils. Il achève de naître. Notre vrai visage, dernière phrase du livre de Boudiquet, notre vrai visage, celle de fils, nous attend dans la tendresse de Dieu. Alors, je vous ai donné, en texte joint, on va pas le lire là, vous lirez tranquillement, vraiment le détail de la méditation de Boudiquet. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Donc, vous voyez, et je pense que ça nous fait comprendre la puissance de cette catégorie de la vie filiale pour dire le salut. Dieu nous a choisis pour faire de nous des fils. Et c'est ça le salut. C'est devenir fils avec le Fils et dans le Fils, alors même qu'on était pécheur. C'est l'inimaginable pouvoir de devenir enfant de Dieu, dit Jean. Voilà. Enfant de Dieu, nous le sommes, mais bien aimés dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Première lettre de Jean. Je termine sur un dernier point, qui est sur la joie du Père. Parce que si vous lisez bien la parabole, ben vous remarquerez que l'accent il n'est pas tant dans la joie du Fils que dans celle du Père. Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Dieu, parfois, on l'imagine très loin, en fait. On l'imagine très autosuffisant. Mais la parabole ne nous parle pas d'un Dieu comme ça. Elle nous parle d'un Dieu qui trouve sa joie dans l'homme, dans la libre réponse qu'il espérait. On nous dit qu'il attendait le Père. Une joie dans laquelle il nous invite aussi à entrer. Réjouissez-vous avec moi. Et toi aussi, le Fils aîné, réjouis-toi avec nous. Le salut, c'est pas d'abord notre soulagement d'être arraché au mal, c'est d'abord la joie de Dieu, la joie d'accomplir en nous ce dont il rêvait depuis toujours. Voilà pour la vie filiale. J'arrête de partager. Est-ce que ça vous...
Oui, Aude.
Oui.
C'est peut-être un peu facile comme question. J'ai toujours eu du mal avec l'idée d'un Dieu tendresse. C'est pas dans mon histoire. Je l'ai rarement vécu comme ça. Plutôt un Dieu lointain et qui fait plutôt peur, quoi. Là, le tableau, c'est tout à fait différent.
Oui. Et tu vois, je pense que vraiment. Vraiment, je pense que la théologie ne convertit pas. Je le pense profondément. Mais je pense qu'elle aide à bousculer un certain nombre d'images qui viennent à notre esprit. On ne sait pas trop comment, hein. On ne sait pas trop comment, mais qu'elle invite peut-être à bousculer les choses, à nous donner envie de relire la parole de Dieu, de relire l'Évangile, de revenir à l'essentiel de tout, qui est quand même ce mystère de Jésus qui donne jusqu'au bout dans la croix. Donc, évidemment, ça se dit au maximum dans l'Évangile. C'est là où on voit que Dieu est prêt à aller jusqu'au bout pour nous. Mais si tu relis toute l'histoire du salut, il y a des hauts, il y a des bas, et parfois dans l'Ancien Testament, c'est ce que faisaient les hérétiques d'ailleurs, hein. on séparait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Marcion, il dit, on bazarde l'Ancien Testament, c'est le Dieu méchant, le Dieu... et puis on garde que le Nouveau Testament parce que là, Jésus, c'est le Dieu bon. C'est une hérésie qui a été condamnée en disant non. Dieu se donne à connaître au fil d'une histoire. Ça, c'est vraiment le propre d'une histoire, comme dans une pédagogie où il nous amène à faire évoluer nos idées toutes faites de Dieu comme celui qui est en surplomb, qui peut-être joue avec nous. Et si tu regardes l'histoire du salut, tu verras que ce qui est incroyablement frappant, c'est que la ligne centrale, c'est quand même cette patience de Dieu qui sans cesse remet le couvert, qui sans cesse retend la main, qui sans cesse à la fois parle par ses prophètes pour dire mais vous faites fausse route, choisissez la vie, et qui toujours se repropose. Et si tu as un texte, par exemple, dans l'Ancien Testament, où tu peux voir cette tendresse de Dieu extraordinaire, c'est dans Osée.
Ouais, je connais pas si...
vous lisez Osée, c'est un petit... Alors, Osée, je ne connais pas le chapitre exactement, peut-être 6, je ne sais plus. Osée, sa femme le trompe. Et il en parle comme d'une prostituée. Et à un moment, il se fâche, etc. Et il y a un moment, il dit, c'est de tête, hein, je l'emmènerai au désert et je la séduirai à nouveau. Et elle sera à nouveau mon épouse. Et c'est incroyable la tendresse tu sens dans ce texte à la fois la tristesse infinie de l'épouse qui n'a pas été fidèle, qui n'a pas su prendre la main, qui n'a pas su, et celui qui inlassablement revient et se repropose. Et je crois que c'est dans des textes comme ça qu'on voit cette infinie patience, et de se dire que non, vous êtes infidèle, mais moi toujours, toujours, toujours et encore je serai fidèle. Et une autre phrase, moi, qui me parle beaucoup, hein, c'est cette phrase dans l'Apocalypse, qui est de dire « Je suis à la porte et je frappe, et celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, etc. » Et moi, j'aime bien me représenter Dieu comme ça aussi, celui qui ne s'impose pas, mais qui frappe et qui attend qu'on ouvre, qui attend une petite ouverture, quelle que soit la forme qu'elle prend.
Ouais.
Et si tu lis alors voilà, des textes comme cela, mais tout simplement de lire un évangile de A à Z, ce qui frappe, tu lis l'évangile de Marc de A à Z et tu te dis, ben, les disciples comprennent rien. Et Jésus va juste, mais tout le temps, hein, c'est lui. Et en fait, Jésus est là et il va jusqu'au bout pour ces gens qui le renient, qui comprennent rien, qui sont durs d'oreille, et il va jusqu'au bout. Mais c'est vraiment dans la figure de Jésus que quand on dit que la révélation se manifeste en plénitude en Jésus, mais c'est vraiment, c'est la sainte face du premier cours.
Ouais.
Voilà. Et c'est le mystère de ce Dieu qui n'est jamais tant glorieux et qui révèle le mystère de sa gloire sur la croix, en fait, dans un amour qui va jusqu'au bout.
Et cette vision d'un Dieu père fouettard, un peu,
ouais.
Ça a été la vision, moi, c'était un peu la vision de la génération précédente. Enfin, c'est assez récent, le Dieu amour.
Ben, je pense que ce n'était pas si récent que ça, par exemple, pour la première génération des disciples.
Dans notre monde actuel, je veux dire.
Vous savez, ma mère, je vais vous raconter une anecdote. Ma mère, elle me racontait que petite fille, c'est quand même pas si vieux que ça. Il y avait une bonbonnière chez elle, chez sa grand-mère. Et évidemment, petite fille à 7 ans, ben, elle ouvrait pour prendre un bonbon. Et il y avait écrit, il y avait un papier dans la bonbonnière, Dieu te voit.
Voilà.
Ben voilà. Donc ça, c'est une génération. On ferait plus ça.
C'est toute une génération.
Voilà. Ouais, j'ai la chance d'avoir le bouquin de Paul Bodidier, Le Retour du Prodigue.
Oui.
Je veux dire, chaque fois que je l'ouvre, je pleure sur chaque tellement c'est beau.
Tellement c'est beau. Non, mais le texte que je vous ai mis, lisez-le vraiment.
Ah oui, mais je le connais bien. C'est merveille.
Je parle pour les autres.
Ah ouais, ouais, ouais. Alors, en plus avec les images à côté, c'est une merveille, quoi.
Ouais, ouais, c'est une merveille. C'est une merveille. Mais vous dites, Claire, que vous pleurez à chaque fois, mais Bodiquet,
c'est vrai.
Il y a un tableau qui m'aide à vivre. Et moi, je l'ai entendu, Claire Bodiquet. Je suis allée plusieurs fois l'écouter à des conférences dans des églises. Il projetait, c'était encore avec le comment s'appelle le
panier
des diapos.
Ah oui,
et à chaque fois, il commentait, mais vous pouvez lire les autifs de Bodhicke avec les images. C'est, ouais, c'est fantastique, c'est une méditation en fait.
Comment tu l'appelles?
Le père Paul Bodhicke, B-A-U-D-I-U-E-Y. Et ces livres, il y en a plusieurs. C'est dans chez MAM, dans la collection Un certain regard. Mais c'était une collection que j'ai beaucoup achetée à un moment. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y en avait d'autres. C'était des interprétations d'œuvres d'art et c'était vraiment.
Et c'était vraiment... laquelle, celle-là, qui vous fait pleurer?
C'est le fils prodigue. Ça doit s'appeler Le retour du prodigue ou un truc dans ce
genre. C'est ça. Le retour du prodigue.
Ouais.
C'est une parabole que je déteste parce que je me mets toujours dans la peau de l'autre.
Ah oui, assez souvent.
Et je comprends tout à fait sa réaction.
Ah, bien évidemment, ça, c'est exactement l'intérêt de la parabole. On vous ferait un discours moralisateur, alors là, ça vous passerait au-dessus, mais Jésus est hyper fort pour ça. C'est-à-dire qu'il prend des paraboles, il raconte une histoire, et spontanément, on s'identifie tout de suite à l'un ou à l'autre.
Oui, oui.
Personnage, selon l'humeur du moment, la situation du moment, etc.
Comme Marthe et Marie. Ça, c'est deux paraboles que je déteste.
Ben voilà. Ah, lisez le week-end, que ça vous fera changer d'avis.
Excellent.
Marthe, Marie et les ouvriers de la dernière heure. C'est les trois.
Ah oui, oui, alors
ça, c'est terrible, les ouvriers.
Ah, les ouvriers de la dernière heure, c'est terrible.
L'ouvrier de la dernière heure.
J'étais.
Alors, l'ouvrier de la première heure, c'est un peu le fils aîné de la parabole.
Oui, tout à fait.
Exactement.
Tout à fait.
Voilà. Ben parce que nous, on a envie d'une justice rétribue un petit peu selon nos mérites, quand même. Et là, on se dit que c'est un peu dégueu parce qu'il arrive à la fin.
Il ne coûte rien et il gagne pareil.
Ah voilà, et il gagne pareil. Bah ouais, c'est vrai.
Il y a aussi le passage entre l'échange entre Jésus et Pierre après son reniement, qui est aussi quand même un beau moment où Pierre. Les trois m'aimes-tu et. Où Jésus descend au niveau de Pierre, quoi, qui finalement ne comprend pas. Voilà, je trouve que voilà, c'est un beau passage aussi. Enfin,
exactement, très très beau passage. On est toujours par rapport à ce que disait Bertrand tout à l'heure. Voilà encore des exemples, mais toute la vie de Jésus est émaillée de ça. Mais c'est-à-dire que vous voyez, on comprend vraiment bien là dans ces trois j'aime-tu et dit. Peine et brebis, on voit à quel point il lui rouvre un avenir à Pierre. Imaginez l'état dans lequel devait être Pierre. C'était quand même le compagnon du début. Et voilà, il a fait face à ses limites. Et il a rouvert un avenir à Pierre, qui Pierre a été, est mort à Rome, comme Paul qu'on va voir là. Donc, je ne sais pas, ça l'a vraiment remis sur un chemin où il s'est complètement révélé.
Ouais,
exactement. Alors, je vous propose une autre. Donc, vous voyez, pardon, cette idée de pardon qui est à la racine de tout, elle nous conduit, renaissance à une vie nouvelle, un temps nouveau s'ouvre, elle nous conduit à cette idée de vie filiale, où je te reconnais comme, dans ce pardon donné et reçu, je te reconnais vraiment comme un père, et je me reconnais comme fils appelé à vivre une vie dans ton intimité et comme fils. Et alors, il y a une autre catégorie, qui pour nous est moins habituelle, qui est celle de la divinisation. Tous ces termes, enfant de Dieu, fils de Dieu, fils adoptif, hérité de Dieu, ils disent finalement une même réalité d'une autre forme, qui est celle de divinisation. Ça, c'était une formule qui a été très chère au père de l'Église, donc premier siècle, et qui vraiment a suscité un immense enthousiasme pendant des siècles. Et aujourd'hui encore, chez les orthodoxes, donc dans la théologie chrétienne orientale, c'est vraiment un point de passage obligé. C'est vraiment un point d'insistance. Alors que pour nous, les catholiques, elle est devenue quasiment incompréhensible. Comment est-ce qu'un homme raisonnable pense-t-il pouvoir devenir Dieu? C'est ça, c'est une divinité. Et en fait, c'est simplement une autre manière de dire qu'on est fait pour Dieu et que la vérité de notre être, on va la trouver dans cette intimité avec Dieu, que notre vraie vie, elle est en Dieu. Alors, ces termes de divinisation ou de théosis ou de déification, on entend ça parfois aussi, ne sont pas bibliques. Donc ça, il faut le dire tout de suite. C'est pas biblique, mais il y a une expression, une fois, qui ressemble beaucoup, qui est du même ordre, qui est l'expression « participant de la nature divine ». Cette expression, vous la trouvez dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est que ce n'est pas parce qu'une expression n'est pas scripturaire, c'est-à-dire n'est pas en toutes lettres dans la Bible, que la réalité qu'elle recouvre n'est pas profondément biblique. Donc, en effet, la vérité que traduit ce terme, elle, elle est sans cesse affirmée dans l'Écriture. Cette vérité, c'est que le salut est une entrée en communion avec le mystère même de la nature de Dieu. On entre en communion avec le mystère même de la nature de Dieu, divinisation. Et ce thème de la divinisation, il va devenir, chez les pères grecs notamment, mais dans la théologie patristique en général, un véritable leitmotiv. Alors, comment ça se fait? Je vais repartager. Les pères vont relier deux affirmations en fait. La première, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, Dieu créa l'homme à son image il le créa. Puis il y a une deuxième affirmation qui là pour le coup se trouve dans la première lettre de Jean. Nous savons que lorsque Dieu paraîtra, nous lui serons semblables puisque nous le verrons tel qu'il est. Créé à l'image de Dieu, appelé à lui devenir semblable. Et ben, les pères relient les deux et ils disent, ben, l'homme est créé pour devenir déiforme. Déiforme. Ça, c'est le projet. Et où est-ce qu'il trouve son plein accomplissement? Et ben, évidemment, dans l'incarnation du Verbe. Dieu, fait à l'image, est pleinement semblable à Dieu dans le Verbe vrai homme et vrai Dieu. Et alors là, je vais vous mettre cette phrase absolument stupéfiante de l'un des pères de l'Église, Athanase. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Athanase, évêque d'Alexandrie, on est au 4e siècle. On dit, oh là là, ça, il va quand même un petit peu loin, ça nous trouble. Eh bien, dans notre propre théologie occidentale, quelques siècles plus tard, au XIIIe siècle, on trouve exactement la même idée chez Thomas d'Aquin. Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions, vous retrouvez l'idée de participant, hein, biblique, là, participions à sa divinité, assuma notre nature, Jésus, afin que lui, fait homme, fît les hommes Dieu. Donc, vous voyez, c'est pas une vue de l'esprit, hein. On est fait pour être, on est fait pour être Dieu, pour participer complètement à sa vie. Les pères ont eu une formule pour dire ça. Ils ont appelé ça l'admirable échange. Le Verbe s'est fait homme, c'est pour que l'homme, en entrant en communion avec lui, soit fait Dieu. Alors ça vous paraît peut-être un peu abstrait, mais dans la liturgie de la messe, de la nôtre, il y a ces mots que souvent on dit très très bas, le prêtre les dit très bas.
Dommage d'ailleurs, c'est que le prêtre il dit tout
bien
ça.
Dommage, c'est bien dommage. Ouais. Je rappelle ce qu'il dit.
En fait, puisqu'en nous être unis à la divinité,
de celui qui a pris notre humanité.
Voilà, comme c'est au moment où il met l'eau dans le vin, il met une goutte d'eau dans le vin, qui va se mêler dans le reste, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Ben, c'est exactement la même idée. Donc, je fais trois remarques sur cette idée de divinisation. Un, elle est pure grâce, c'est un don, ça vient pas de nous. Cette divinisation, c'est le fait de Dieu seul. Les pères vont dire, l'homme devient par grâce, c'est-à-dire par le don gratuit de Dieu, ce que le Christ est par nature, vrai Dieu. Donc, c'est une grâce. Deux, c'est un chemin. Et vers cette divinisation, il y a un seul chemin. C'est celui, au jour le jour, d'une configuration de plus en plus profonde avec le Christ. Comment? Ben, par notre vie, par la prière, par les sacrements. Évidemment, le baptême dans lequel on entre dans cette vie nouvelle, la confirmation, et évidemment, de la manière la plus parfaite, par l'Eucharistie, puisque dans l'Eucharistie, c'est vraiment cette nourriture qui nous assimile à lui, qui vient demeurer en nous. Donc la divinisation, ce n'est pas un truc magique, c'est un chemin. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que être divinisé, être fait Dieu, ce n'est pas renoncer à être pleinement homme. Ça, c'est important de le dire. Quand Dieu se communique, ce n'est pas l'anéantissement de la créature, c'est le contraire. C'est son élévation, c'est son assomption, on pourrait dire. Donc, il faut maintenir la réalité de Dieu et la réalité de l'homme. Dieu reste Dieu, l'homme reste l'homme. Ce n'est pas de la fusion. Et en même temps, il y a ce don de la vie divine. Et quand la vie divine se donne à l'homme, elle ne l'empêche pas d'être homme. C'est le contraire. Elle lui permet de parvenir au plein épanouissement de ses potentialités. C'est comme un couronnement, en fait. De même que le Christ, il est vrai Dieu sans que sa nature divine l'empêche d'être vraiment homme. Et qu'il est vrai homme sans que sa nature humaine l'empêche d'être vraiment Dieu. Ça paraît peut-être un peu paradoxal, mais on pourrait dire de la divinisation qu'elle est la véritable et suprême humanisation de l'homme. Ça, c'est la Commission théologique internationale, l'instance qui a le plus d'autorité, peut-être au Vatican. Tout simplement parce que devenir de plus en plus ressemblant à Dieu, ben en réalité, c'est vraiment atteindre la plénitude de la personne humaine. C'est devenir de plus en plus une personne selon les vues de Dieu. Voilà. Quelques mots juste, mais pour cette expression de divinisation, qui est une autre expression très, très importante dans la tradition de l'Église de ce mystère du salut. Et donc, à nouveau, vous voyez qu'on est très loin là de l'insistance exclusive occidentale sur la réparation. Je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissiez. Ça va ?
On entend plutôt que divinisation, on entend sanctification. Moi, c'est ce que je vais entendre souvent.
Ah ouais. Oui. L'idée n'est pas exactement la même.
Non, en fait, non.
Ouais, c'est intéressant. Il faudrait que j'y réfléchisse.
Enfin, il ne faut pas non plus se rapprocher trop de cette divinisation. Il ne faut pas faire trop tôt.
Que ?
Pas une divinisation trop tôt. Plutôt l'attendre à la fin des temps, parce que c'est dangereux peut-être.
Quoi ? Mais le salut, c'est pas que pour la fin des temps.
On est d'accord.
Voilà. Le salut, il y a un truc qu'il faut toujours tenir. Ce que j'avais dit au premier cours, il n'y a pas création, péché, salut. Ce n'est pas un ordre chronologique. La création, c'est déjà un ordre de salut. Quand je vous parle d'une création qui contient déjà ce pardon donné originel, il y a déjà cette idée de salut. La création en elle-même, faire sortir du néant, faire sortir pour appeler à l'existence, c'est déjà un acte de salut. Et à partir du moment où la création est déjà pardon, qu'elle accepte, elle entérine ce risque de la liberté de l'homme, du refus, de la distance, et qu'elle est fondamentalement déjà pardon, elle est déjà en elle-même salut. Et vous voyez que là, on a parlé plusieurs fois de vie nouvelle, de recréation, alors qu'on est dans un cours sur le salut. Donc le salut en lui-même, il est recréation. Et le salut, quand le pardon rejoint nos vies et que il fait bouger quelque chose dans nos vies, on est déjà de l'ordre d'un salut. Donc c'est pas simplement à attendre pour après. Ça, c'est vraiment important de comprendre. C'est déjà là. Alors, on va beaucoup revenir sur ce couple-là qui est très important dans les deux prochains cours. C'est déjà là et c'est pas encore.
Ah oui, c'est déjà là.
Ça veut dire qu'on est là à attendre quelque chose qui est promis pour plus tard. La vie éternelle, c'est pareil, c'est déjà maintenant. Parce que, tout simplement, le Christ est déjà ressuscité. Donc, il y a quelque chose, ça y est, qui est déjà radicalement transformé dans la vie humaine, dans l'espérance humaine. Et il nous a déjà envoyé son esprit. C'est ce qu'on va voir maintenant, la vie dans l'esprit. Déjà,
Et pourtant, il y a une phrase qui gêne, c'est « nous attendons ta venue ».
Ouais, dans l'anamnèse.
Ouais, ben ça me gêne.
« Nous attendons ta venue dans la gloire ». Alors, ben, je botte un coup et on en parle la semaine prochaine. Retour du Christ. Ouais,
sur la notion de divinisation, tu disais tout à l'heure que chez les orthodoxes, c'était très, très ancré, très réel.
Oh, mais c'est fondamental. En fait, dans la théologie, tu as vraiment deux grandes catégories pour dire le salut, c'est libération. Ça, c'est très, très juif, hein. C'est tout le temps Dieu fait sortir, Dieu libère, etc. C'est le Dieu sauveur qui libère. Et puis, divinisation. Et libération, réparation, c'est plus occidentale. Et divinisation, c'est totalement orthodoxe. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais tu vas dans une liturgie orthodoxe, tu comprends très bien ça, même sans rien comprendre, même si c'est en slavon, etc.
Ça rejoint leur rituel.
C'est le sel qui descend sur la terre, en fait. Et déjà, la participation à la liturgie céleste, c'est ouais,
c'est vrai. C'est une vraie différence par rapport à nous. Hein.
C'est une différence, on se rejoint sur le fond, mais c'est vraiment une différence d'accent, en fait. Quand même. Ah ben ouais. Mais
j'ai pas compris la différence entre eux et nous, je suis désolée.
Entre eux ?
Entre les orthodoxes et nous. Dans leur...
La divinisation, c'est quelque chose que vous n'avez sans doute pas beaucoup entendu, dont vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler chez les catholiques.
Même en dehors du point qu'on a évoqué à la messe, ouais.
Voilà, même si vous voyez ce que dit Thomas d'Aquin, hein, c'est extrêmement clair, hein. On est fait pour être Dieu. Ou Athanase.
On n'est pas dans une perfection morale, je trouve que très.
Ah non, beaucoup... non, c'est pas dans.
On est un peu. Enfin, moi personnellement, j'ai été beaucoup baignée dans cette idée justement que de morale, voilà, et qui est très, qui bride beaucoup, qui est très. Enfin, j'allais dire castratrice, quoi. Enfin, vraiment, elle empêche une forme de plénitude, de vie en Dieu dès maintenant, parce qu'on est, enfin moi j'ai toujours l'impression que je ne fais pas assez, je suis pas assez bonne, je fais pas assez de bon, de voilà, et en fait c'est par, pour moi c'est un peu par imprégnation de la vie de Dieu que je tends à rentrer en relation avec ce Dieu qui est au fond de moi. Enfin, voilà.
Oui, mais je crois
donc,
que
il y a une recherche de perfection qui est accrue. J'essaie de revoir parce que je côtoie des orthodoxes, des amis de ma fille dont les parents sont c'est quoi le terme adéquat, pasteur, sans être consacré, prêtre.
Ah, vous voulez dire chez les orthodoxes ? Non, c'est
ouais,
les
sans être consacré, marié.
Sans être. Ah bah des moines. Les moines ne sont pas mariés, les prêtres peuvent être mariés chez les orthodoxes.
Ouais, c'était pas le terme, mais bon, donc voilà, et je vois pas la différence toujours là entre eux et nous. Je l'ai pas intégré. Comment ça se manifeste, etc.
La manière dont ça se manifeste, c'est que les orthodoxes vont être beaucoup. D'abord, ils donnent une place à l'Esprit Saint qui est beaucoup plus importante que nous. Mm-hmm. Et deux, ils font quand ils parlent du salut, ils en parlent vraiment sous le terme de la divinisation. Et si vous allez dans une liturgie orthodoxe, vous allez voir que vous êtes déjà au ciel, en fait.
C'est-à-dire qu'ils ont conscience de préparer leur ciel dès à présent sur Terre, plus que nous.
Quand ils parlent de salut, c'est plus ça. C'est un Dieu qui nous rejoint et qui nous prend avec lui et dans lequel on est appelé à partager sa vie. Et ils utilisent ce mot à être divinisé, qui est un mot que vous n'entendez pas tellement, très peu chez nous. Et donc, nous, c'est exactement ce que dit Claire, c'est qu'on a une prédominance de l'aspect moral, mais qui est finalement pas forcément... très ancien hein, non plus, et c'est exactement ce que je vous ai dit dans le cours sur le péché. Je vous ai dit, le péché n'est pas une affaire morale, c'est une affaire de théologale. Et vraiment, toute la ligne directrice de ce cours, c'est de vous dire que ce qui est clé dans
il n'y a plus de son.
Il n'y a plus de son. Que ce qui est clé dans cette histoire d'anthropologie chrétienne, c'est de mettre au cœur la relation.
D'accord. Juste sur le salut, moi, mes échanges qui ont été nourris avec cette jeune fille, ça a plutôt été que chez eux, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de pesage des âmes et qui sont très, quelque part, c'est caricatural, mais donc très attentifs à, dès à présent, se sanctifier sur Terre et à accumuler les bonnes actions. Et en fait, après ça, j'ai compris qu'il y avait quand même une salle d'attente et je suis arrivée au point que finalement, on se rejoignait parfaitement.
Non, mais bon. Moi, mon mari est orthodoxe, donc
je peux vous et dire. Alors du coup
on se rejoint surtout, on a le même, alors il y a le filioque, enfin bon, là il fallait aller à la journée sur l'orthodoxie qui il y a un mois, deux mois, mais filioque en plus aujourd'hui, au fond c'est vraiment des je suis un peu dure en disant ça, mais des querelles de spécialistes, mais finalement on peut tout à fait trouver un terrain d'entente pour dire ça. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est la question du pape, de la primauté du pape, et puis des questions politiques aussi. Mais sur le fond, on a exactement le même credo. Alors après, il y a dans la discipline, on ne donne pas les sacrements de la même manière, on a les mêmes sacrements, ils ont les icônes que nous, on n'a pas, qui nous permettent, qui sont vraiment justement une fenêtre vers l'invisible,
C'est rituel.
Voilà, qu'on n'a pas. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est vraiment... C'est une fenêtre sur l'invisible. C'est Dieu qui se donne aussi. On vénère les icônes. Donc, après, je vous dis simplement que c'est des différences d'action, des différences d'insistance, sachant que eux, les orthodoxes, considèrent que ce sont les garants de la tradition la plus ancienne. Et que c'est nous qui nous sommes, à un moment, de notre propre chef, éloignés. Mais eux se présentent absolument comme les garants de la tradition ancienne. Et dans leur manière de célébrer, ils sont probablement plus anciens, effectivement, que nous. Ils ont moins évolué. Vous êtes un peu dans un autre monde. Allez rue d'Aru, vous allez voir, vous êtes un peu dans un autre monde.
Oui, j'ai envie d'y aller, moi. Je voudrais faire une messe orthodoxe. Rue d'Aru, faut aller.
Oui, vous allez rue d'Aru. Ouais. Vous allez au rez-de-chaussée, ça fera en slavon, et vous allez au... C'est plus beau, mais c'est magnifique. Hein. Écoutez les chants, allez écouter les chants, vous verrez que les chants, ils vont au ciel, il n'y a pas d'instrument, c'est que de la polyphonie, c'est extraordinaire. Vous vous mettez à gauche, du côté de la chorale, et vous allez voir à quel point c'est beau, c'est extraordinaire.
Il y a le nom d'une église, rue d'Aru, ou quand on dit rue d'Aru, tout le monde sait?
Non, oui, c'est la cathédrale Saint-Alexandre Nevsky, qui est rue d'Aru.
Ok, super, merci beaucoup.
Je ne vais pas la louper.
Merci beaucoup.
Voilà. Alors, la vie selon l'esprit. Donc, alors là, il va falloir que je repartage. Alors là, vous accrochez un tout petit peu. Mais après, c'est promis, les deux prochains cours, il n'y a plus ça. Alors. Voilà, on a parlé du salut comme pardon. Qui nous fait prendre conscience qu'on est appelé à rentrer dans une vie filiale. On a parlé aussi de ce salut comme quelque chose qui est en creux au fond de nous, et qu'on est appelé à être Dieu, et que Dieu veut nous faire partager sa vie, veut faire de nous, communier à sa vie, le terme de divinisation. Tout ça, c'est des termes qui disent la même chose, un Dieu qui se donne, un Dieu qui veut nous partager sa vie, et qui nous disent, tous ces termes, pourquoi, ce pourquoi on est fait. Ça, c'est notre vocation. Vous remarquez qu'on a pas mal parlé du Père, pas mal parlé du Fils, et pas beaucoup de l'Esprit. On a quand même dit que c'était le don de l'Esprit qui permettait de dire Père à la Pentecôte. Alors, je vous propose une autre approche du salut, qui est le salut comme vie dans l'Esprit. Ça, c'est une expression de Paul, et on va regarder ça à partir du chapitre 8 de la lettre aux Romains. Alors, les lettres de Paul, elles sont peu commenté dans les homélies. Souvent, on se concentre sur l'Évangile. Et donc là, on avait une occasion de regarder celle-là de plus près. Donc, je le fais. Tout simplement parce que c'est vraiment cette lettre, c'est vraiment un des sommets théologiques du Nouveau Testament. Donc, dans la Bible, la lettre de Paul, c'est la première dans le classement. Première, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que c'est la plus longue. Les lettres de Paul dans la Bible, elles sont classées par ordre de longueur. Mais de fait, c'est aussi une de ses lettres les plus importantes, qui a été écrite à peu près 25 ans après la mort de Jésus. Paul va effectuer un périple autour de la Méditerranée et il projette à un moment d'aller rencontrer la communauté chrétienne de Rome. Et du coup, il veut préparer sa venue en lui envoyant une lettre. Et effectivement, un peu plus tard, il va se rendre à Rome et c'est là-bas qu'il mourra, comme Pierre, en martyr. Il va mourir décapité. Alors, cette communauté chrétienne de Rome, elle était apparue là-bas assez tôt, probablement 10 ans après la mort de Jésus, mais on ne sait pas qui a fondé cette communauté. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui venaient du judaïsme, parce que c'était une ville de commerce, avec beaucoup de marchands, et parmi eux, des juifs. Et donc, ils formaient une colonie qui était importante, très estimée et respectée. On sait que l'empereur, à un moment, les avait expulsés, parce qu'on dit qu'ils ne cessaient de s'agiter sous l'impulsion d'un certain Christus, c'était le Christ, et puis ils y reviennent. Donc, parmi dans cette communauté, il y a d'abord des judéo-chrétiens. Dans sa lettre, Paul va les appeler des juifs. Et parmi les judéo-chrétiens, il y a pas mal de tendances diverses. Il y en a qui voient dans le christianisme vraiment une suite du judaïsme. Il y en a qui veulent garder un minimum de pratiques juives. Puis, il y en a d'autres qui pensent que la Torah est complètement abolie. Et puis, à côté des judéo-chrétiens, on trouve aussi des pagano-chrétiens. Donc, ceux qui ne sont venus au christianisme sans passer par le judaïsme. Et cela, dans la lettre, vous verrez, Paul les appelle les Grecs. Et donc, inévitablement, dans la communauté, vu ces diversités, des tensions vont apparaître. Et une des questions, c'est de savoir d'où vient le salut. Pour les uns, la loi reste déterminante, même si Jésus accomplit la loi. Et pour les autres, eh ben c'est Jésus qui sauve. Et donc, une liberté est donnée vraiment par rapport à la loi. Et donc, Paul a vent de ces tensions et il leur envoie ses lettres en prêchant pour l'harmonie dans la communauté. Et il dit, il faut construire cette harmonie entre juifs et païens. Lui-même, vous savez qu'il vient du judaïsme. Et donc, il est un de ceux qui a compris que le christianisme devait franchir les limites d'Israël. Il devait s'ouvrir aux païens. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'apôtre des nations ou l'apôtre des gentils. Mais tout le monde, y compris dans son entourage le plus proche, n'approuvait pas ça. Et il y a eu des discussions homériques qu'on raconte notamment dans les Actes des Apôtres. Donc la grande idée de Paul, c'est que tous doivent tenir que nous sommes tous sauvés en Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve. Et c'est lui seul. C'est pas la loi, c'est pas les interdits alimentaires, c'est pas la circoncision. Et les païens seront aussi sauvés que les juifs. Et donc, dès le début de la lettre, on a la thèse principale. Car je ne rougis pas de l'évangile, il est force de Dieu pour le salut de tout croyant, du juif d'abord, puis du grec. Donc Paul parle d'un salut qui vient de l'évangile, un salut donc qui souligne la dimension universelle pour le salut de tout croyant, à une condition, c'est qu'il s'ouvre à la foi au Christ. C'est la foi au Christ qui se lève. Ça, c'est la thèse de la lettre. Et alors donc, nous, on va aller voir un peu plus loin le chapitre 8, où il est question de cette vie dans l'esprit qui nous intéresse dans cette optique de salut sur laquelle on réfléchit. En résumé, dans ce chapitre 8, ce que dit Paul, c'est que celui qui est uni au Christ naît dès à présent à une vie nouvelle. Pas pour plus tard, pas pour après notre mort, à une vie nouvelle qui est, il la qualifie comme ça, d'une vie selon l'esprit ou d'une vie dans l'esprit. Intéressant déjà, hein. Au moment où Paul proclame le mystère du salut à cette communauté, comment est-ce qu'il le fait? C'est quand même extraordinaire, avec une profession de foi trinitaire. Dieu sauve par Jésus-Christ dans l'esprit. Et ça, c'est complètement fou, en se disant qu'on est 20 ans après, 25 ans après la mort de Jésus, il n'y a eu aucun évangile encore de rédigé, personne n'a jamais entendu ce mot de trinité, il n'y a pas eu de... personne n'a réfléchi sur la trinité, il n'y a pas de traité de théologie. Et Paul est déjà capable, à ce moment-là, dans cette lettre, de dire « Dieu sauve par Jésus-Christ dans l'esprit ». C'est assez fantastique. Nous, on est habitués, mais c'est assez fantastique. Alors, je vous ai donné le texte. J'ai fait des séparations en quatre parties. On ne va pas tout lire, mais pour que vous ayez le texte complet. On a une première affirmation qui est « Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus ». Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est de l'ordre d'un salut. Il n'y a plus de condamnation. Et c'est maintenant. Le maintenant exprime une nouveauté. La nouveauté de la situation qui a été inaugurée par le Christ. C'est un monde nouveau. Le temps de la loi, et avec elle, le temps de la condamnation, parce que transgresse la loi, condamnation, a laissé la place au temps de la foi. La loi, c'était une période d'avant, celle qui précédait l'ère du salut instaurée par Jésus. Maintenant, tout ce temps, avec ce que ça comporte de négatif, et notamment de condamnation, jugement est clos. Et il n'y a plus de condamnation pour qui ? Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La condition de la libération, c'est être en Jésus. Et là, vraiment, remarquez ces petits mots « dans »,« en ». « En », ça évoque une communion de vie, une vie partagée. Dès maintenant, le chrétien vit en Jésus, dans le Christ. Voilà. Et vous remarquez déjà dans cette première phrase que ce qui est central, c'est Jésus. C'est Jésus qui est à la source. C'est à la source de cette vie dans l'esprit, c'est Jésus. Donc voilà, à partir du verset 2, on va entrer dans l'argumentation. Et là, il nous dit, il y a deux lois qui s'affrontent. La loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit. Et l'homme est tiraillé entre ces deux lois. Ces deux lois, elles combattent en lui. Alors, il est à la fois la proie de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est laquelle on est mis par notre condition humaine. Il y a un peu une idée de fatalité. On est captif. On est sous le joug d'une domination. On est asservi par la chair à la loi du péché. Voilà. C'est le péché, cette puissance qui est en nous et qui le conduit à la mort. Vous vous rappelez un peu l'idée de péché originel. Hein, c'est tout à fait cette idée-là. Et ça, il nous dit, cette loi du péché, elle est présente en nous. Seul l'esprit peut nous en délivrer. Et puis la loi de l'esprit, Alors ça, c'est une expression superbe qui vaut vraiment le coup de retenir. C'est une expression qui est unique dans le Nouveau Testament. L'Esprit, il est omniprésent dans ce chapitre. C'est vraiment lui qui donne son unité au chapitre. Eh bien, il nous dit, la loi de l'Esprit, déjà, elle donne la vie. Elle donne la vie et elle est opposée à la loi du péché qui va avec mort. La loi de l'Esprit, elle affranchit, elle libère de la loi du péché. Alors ça, c'est une expression qui est assez paradoxale parce que d'ordinaire, on a plutôt envie d'opposer loi et esprit. Alors qu'est-ce que c'est que le sens de cette expression? Est-ce que c'est vraiment une loi? En fait, cette expression, qui est donc toute nouvelle, elle provient de la synthèse entre deux formules des prophètes très anciennes qui sont issues l'une d'un texte de Jérémie et l'autre d'un texte d'Ézéchiel. Jérémie. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi, au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Ézéchiel. Les deux prophètes ont vécu à peu près à la même époque. Hein. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Donc là, tout est dans la loi, on dit, je mettrai mon esprit en vous. C'est le rapprochement des deux textes qui va établir une équivalence entre la loi et l'esprit. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'au fond de notre cœur, Dieu met sa loi, que dit Jérémie, et que celle-ci, Ézéchiel, n'est autre que son esprit. La loi qui est mise dans le cœur des croyants, c'est son esprit. Et donc, ce que dit Paul, avec Jésus, avec le don de l'esprit à la Pentecôte, tout ça, tout ce que les prophètes annonçaient, désormais, c'est réalisé. La loi est devenue l'esprit de Dieu. Un esprit qui a totalement investi le cœur des hommes.
Aude, parfois, il y a de tels renvois entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que je me suis dit, mais quand est-ce que ça a été écrit vraiment? Est-ce qu'ils n'ont pas pu écrire après?
L'Ancien Testament?
Ouais. Ah il y a, parfois, il y a de tels... C'est tellement énorme.
Bah vous mettez totalement l'accent sur le fait que c'est absolument indissociable. Rappelez-vous de la journée de Roselyne. La première, c'était l'Ancien Testament.
Ouais, je l'avais pas fait.
Et la deuxième, si vous vous souvenez de son titre, c'est pas le Nouveau Testament. C'est le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Et ce que Roselyne a tenté de nous dire, c'est que c'est absolument indissociable. Le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament n'a plus aucun sens.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on a les preuves que les uns sont écrits avant les autres? Est-ce qu'il n'y a pas des rajouts dans l'histoire, etc.? Parce qu'à l'époque, le livre, il était quand même rare. Est-ce qu'il n'y a pas de la recomposition?
Tellement... Paul, il a une formation rabbinique. Tout ça, il connaît tout ça absolument par cœur. Hein. Donc, Non. La Bible, elle trouve sa forme à peu près définitive, je vous ai dit, vers l'an 400. Rappelez-vous, Esdras, vers l'an 400.
Ouais, mais justement, on aurait pu renforcer le propos du Nouveau Testament en modifiant un peu l'Ancien pour lui faire...
Avoir des modifications de traduction, notamment avec la Septante, voilà. Mais là,
de toute façon, la foi porte à penser le contraire et j'ai honte de mettre le doute. Hein.
Il n'y a pas de doute. Tous les disciples sont juifs, Jésus lui-même est totalement imprégné de l'Ancien Testament. On le lit dans les synagogues, on prie avec les psaumes, on se raconte dans les fêtes juives, on se raconte ces récits de la libération d'Égypte, etc. Nous, on s'en rend moins compte, mais les juifs sont totalement imprégnés de ça. Et tout ça, ils le connaissent absolument par cœur. Et encore plus quelqu'un comme Paul, qui lui a fait des études, qui est un lettré par rapport à quelqu'un comme Pierre, par exemple. Donc, ce qu'on nous dit là dans cette formule, que je vais revenir là, la loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ a affranchi de la loi du péché et de la mort, eh bien, il nous dit, l'esprit, c'est la nouvelle loi qui nous est donnée, et elle donne, et elle renouvelle et transforme le croyant. Elle lui donne de pouvoir obéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est plus une contrainte extérieure, comme la loi d'avant. C'est une loi intérieure que chacun va pouvoir accomplir après en avoir perçu la pertinence. Donc, la loi de Moïse, elle existe toujours. Il n'y a pas de problème. Hein. Jésus ne l'a pas abolie. On nous dit qu'il l'a accomplie. Il ne l'a pas abolie. Et évidemment que Jésus n'a pas aboli en particulier le double commandement qui la résume. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Mais, nous dit Paul, il y a une autre loi qui est la loi de l'esprit. Et celle-là, elle est écrite sur notre cœur. C'est l'esprit de Dieu mis au-dedans de nous. Donc, au fond, on pourrait dire on est accordé à Dieu par le fond de soi-même. Il n'y a plus de normes extérieures. On n'a pas besoin de la formuler dans le détail, cette loi. C'est un dynamisme, c'est un principe intérieur, un principe d'action intérieure. Et Augustin, il a une très belle formule, il disait « aime et fais ce que tu veux ». Ben, c'est exactement ça. Fais ce que tu veux, mais si tu aimes, alors tu feras ce qu'il faut faire. Tu accompliras la loi. Ben, c'est ça que nous dit Paul. Désormais, on marche sous l'empire de l'esprit. Il est source de vie, il donne la vie. Et en fait, cet esprit est en train de vaincre l'empire du péché en nous. Alors, à l'origine de cette libération, c'est ce que je vous disais, il y a qui ? Il y a le Fils. C'est l'envoi du Fils. Le fondement de la vie dans l'esprit, hein, vous rappelez, hein, la catégorie qu'on est en train de voir, c'est la vie dans l'esprit. Le fondement de cette vie nouvelle, que Paul qualifie de vie dans l'esprit, c'est l'envoi du Fils. De fait, chose impossible à la loi, impuissante du fait de la chair, donc là on parle de la loi de Moïse, hein. Dieu, en envoyant son propre Fils, avec une chair semblable à celle du péché et en vue du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que le précepte de la loi soit accompli en nous, dont la conduite n'obéit pas à la chair mais à l'esprit. Voilà. Bon. En plus, il reste plus de 10 minutes, donc je vais passer assez vite, on ne va pas s'emberlificoter dans les détails. Ce que je vous fais remarquer, c'est que le mot de salut n'est pas là, hein, encore, hein. Mais l'idée, elle est bien là. Parce que ce que Paul est en train de dire, c'est que la venue du Christ, elle va mettre fin à la domination du péché. En Jésus, Dieu agit et il sauve. Et quand on s'unit au Christ par la foi, on est rendu solidaire de cet acte extraordinaire d'amour et d'obéissance du Christ et qu'on n'est plus sous le règne du péché. Voilà. Et que ça va nous permettre d'accomplir, dit-il ici, le précepte de la loi, c'est-à-dire le commandement de l'amour. Alors, je vais passer un petit peu. De toute façon, on ne va pas lire. Alors, on a ensuite quelques versets qui suivent que vous aurez dans le document, mais qui sont vraiment, vraiment pas simples. Je vais vous résumer. Ce que dit Jésus, ce que dit Paul, c'est que maintenant qu'on est dans le Christ Jésus, il y a un nouveau rapport à Dieu qui s'instaure. Et là, on va voir quelques versets qui sont complètement bâtis sur des oppositions, notamment entre la chair et l'esprit. Et Paul va opposer ceux qui sont du côté de la chair et ceux qui sont du côté de l'esprit. C'est ça, la vie dans l'esprit. Hein. Il y a ceux qui vivent selon la chair et il y a ceux qui vivent dans l'esprit. Alors, c'est quoi la chair et c'est quoi l'esprit? D'abord, il faut savoir que l'anthropologie biblique, elle ne sépare pas. Hein. Elle voit toujours l'être humain comme un tout. La chair, pour Paul, c'est, là il faut décoder, hein, mais c'est la fragilité humaine. C'est pas la chair comme notre chair, notre amas de cellules, c'est pas la viande. C'est la fragilité humaine. C'est notre humanité en tant qu'elle est fragile, vulnérable, qu'elle peut s'éloigner de Dieu. C'est l'homme qui du coup est susceptible effectivement de pécher. Donc ça a rien à voir, quand on parle de chair, ça a rien à voir avec ce qu'on appelle le péché de chair. Rien à voir avec le sexe et à la limite rien à voir avec à la limite le corps. C'est l'homme fragile. Et l'esprit, pour ceux qui vivent dans l'esprit, l'esprit c'est ce qui caractérise toute créature dans la mesure où elle se laisse conduire par l'esprit de Dieu. C'est l'homme qui reçoit l'esprit de Dieu. Et Paul oppose les deux, ceux qui sont dans la chair, alors ils ont des pensées, des comportements qui relèvent dans la chair, de la chair, ils sont sous le pouvoir de la chair. Et puis, il y a ceux qui sont du côté de l'esprit et qui font corps avec cet esprit de Dieu qui habite en eux et qui est l'esprit du Christ. Et ça, nous dit Paul, c'est un esprit qui est vie et qui donne la vie. Ceux qui vivent selon la chair, eh ben, ils sont entraînés loin de Dieu par leur fragilité. Et ceux qui vivent selon l'esprit, la vie dans l'esprit, sont accordés à Dieu. Alors, vous voyez, on a l'impression qu'il y a deux groupes. Et Paul, il nous présente les choses comme s'il y avait un dualisme. Mais en fait, cette tension, en fait, elle traverse chacun intérieurement. On est tous pris dans cette tension entre une vie selon la chair, toute cette loi en nous qui nous incite à, bah, qui nous permet de pas tenir bon dans la ligne qu'on a prévue, qui est liée à notre condition finie. Et puis en nous, il y a aussi cette vie dans l'esprit possible quand on consent à cette action de l'esprit, cet esprit qui agit par grâce au fond de nous. Et c'est un combat. C'est un combat. Et Paul nous dit, eh ben, ce travail de l'esprit en nous, quand on accepte de vivre selon l'esprit, il a un double aspect. D'abord, il transforme notre comportement. Et puis, il a un deuxième aspect, c'est que surtout, il fera vivre nos corps mortels. Et ça, c'est la résurrection. Ça, c'est la nouvelle grande idée. Alors, et si l'esprit, verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la promesse ici d'une libération totale et définitive à la fois du péché et de la mort. Plutôt, il nous disait, ça t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il le dit d'une autre manière ici. C'est déjà aujourd'hui et en même temps, c'est encore à venir. Alors, je vais lire juste. Je vais pas tout faire. Peut-être lire ce paragraphe-là, verset 14, si j'avance encore un petit peu, parce que ça, c'est vraiment très beau comme paragraphe. Tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez, on retombe sur la catégorie d'avant. Une vie dans l'Esprit, ça nous conduit à rentrer dans une vie filiale. On retrouve la même catégorie. Tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adopté qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Ce dont il s'agit là, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit en nous. Et on revient à l'idée de filiation. Libérés par l'Esprit, les croyants sont fils de Dieu. Voilà un des fruits de l'Esprit. C'est qu'il nous constitue fils, il nous transforme de l'intérieur pour faire de nous des fils. Et vous voyez l'opposition ici, d'un côté on a fils, et de l'autre côté on a esclave. Et ce mot de iotésias, que j'ai gardé en grec, c'est un mot en fait vraiment d'un vocabulaire juridique, c'était le mot qui était utilisé pour dire quand on affranchissait un esclave, il accédait, il passait à l'iotésias. Huios, c'est fils en grec. Et ben voilà. Quand on se laisse conduire par l'esprit, l'image qu'on se fait de Dieu change et on passe de la peur des esclaves à la liberté des fils. Et la preuve de l'esprit en nous, c'est ça. C'est que c'est la nouveauté de notre prière. La nouveauté de notre prière qui permet qu'on s'adresse à Dieu comme Abba, comme Père. Une prière qui révèle une familiarité avec Dieu qui était choquante pour les juifs de l'époque. Qui pouvait provoquer. Mais comme fils adoptif, on peut revendiquer cette intimité avec Dieu. Alors, malheureusement, je vais devoir sauter le paragraphe d'après, vous pourrez le lire, sur les souffrances du temps présent. Si j'en dis un mot, je vous résume ce paragraphe qui sont les versets 18 à 27, parce que là, on a un tableau extraordinaire où on nous dit, vous attendez un salut, mais votre avenir, il est lié au devenir de la création tout entière. Le devenir de la création tout entière est lié à celui des hommes. Ça, c'est quand même hyper intéressant à notre époque où on est tellement soucieux de l'écologie et de création. Et Paul nous dit, au cœur de l'attente de la création tout entière, il y a quoi ? Il y a l'espérance et la prière chrétienne. Et dans ce paragraphe, il parle à plusieurs reprises de gémissements qui viennent de l'homme, de gémissements qui viennent de la création. Et il nous dit, même à un moment de gémissement de l'esprit qui est en nous. Donc, en fait, il est important de nous dire, c'est que notre monde, il est orienté vers Dieu tout entier, pas nous seuls. Et que toute la création, elle est portée dans cette espérance d'un salut. Et que la création, elle gémit, comme il dit, très beau, dans un travail d'enfantement. Donc, gémissement. Donc, il y a souffrance, il y a comme un gémissement, c'est quoi? C'est comme une parole qui est un peu inarticulée. Mais ces gémissements, disent quelque chose d'un dysfonctionnement, d'une souffrance, ils les comparent à un travail d'enfantement. Donc ces gémissements, ils ouvrent sur une espérance. C'est vraiment une très belle image. Quelle espérance? Celle d'entrer avec nous dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et au cœur de ce paragraphe, vers le verset 26-27, il y a deux versets très beaux sur la prière. Donc, on est toujours dans la vie, dans l'esprit. Hein. Et voilà ce qu'il nous dit de l'esprit. Pareillement, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Ce qu'il est en train de dire, c'est encore plus beau en grec. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi prier comme il faut. Et alors, qu'est-ce qu'il parle ? On aspire, mais en fait, on n'est même pas tellement capable de le formuler. Et ce qu'il nous dit, ben, cet esprit qui est mis en nous, il vient assister notre faiblesse. Et lui aussi va gémir, mais on voit à la suite que cet esprit intercède pour nous. Et on voit que cet esprit, il va comme réorganiser nos désirs qui ont été désordonnés. Il va les réorganiser selon sa manière de penser. Et vous voyez, celui sonde les cœurs, sait quel est le désir de l'esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. En fait, ce texte est un peu difficile à traduire. Ce qu'il nous dit, c'est que quand on prie, il y a un travail de l'esprit qui se fait au fond des cœurs et que tout n'est pas toujours d'emblée clair dans notre cœur. Ben, on ne sait pas quoi, mais l'esprit prend le relais et réoriente et réorganise les désirs de l'homme selon les vues de Dieu. Voilà. La prière, c'est beau, hein. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est un temps où l'esprit va ajuster mon existence au projet de Dieu. Et que, aussi misérables que soient nos gémissements, Dieu va y reconnaître l'intention de l'esprit qui habite en nous et qui nous ajuste à lui. Je passe ce paragraphe sur la prédestination. Je vous dis juste que prédestination, il ne faut pas le comprendre comme certains seraient prédestinés au salut et d'autres à la damnation. C'est nous tous qui sommes prédestinés. Ça veut dire qu'on est d'avance destinés à devenir tous fils. C'est ça. C'est pas prédestination au sens augustinien. Prédestination au sens de Paul. C'est-à-dire, c'est notre vocation de toute éternité à tous. On est prédestinés à ça, à devenir fils dans le Christ. Et puis, il y a le dernier temps. Et alors là, je vous le lis parce que pour le coup, ça, c'est vraiment magnifique. Parce que tout ce paragraphe, tout ce chapitre de la vie dans l'esprit, vous allez voir sur quoi il se termine. C'est vraiment sur une espérance fantastique. Par contre, je vois qu'il est 10 heures, donc j'en ai pour 2 minutes. Mais ceux qui veulent partir, ne vous gênez vraiment pas du tout. Hein. Que dire après cela ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus ? Là, je traduis tous les hommes. Hein. C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera ? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, on nous met à mort tout le long du jour, nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors voilà, magnifique. Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Sauveur. Le dernier mot de Romains 8, de ce chapitre sur la vie dans l'esprit, c'est vraiment un chant d'amour. Oh, pardon, excusez-moi. Chaque fois, je fais la même manip. Voilà. Voilà, c'est vraiment le dernier mot. C'est vraiment ce champ de confiance dans l'amour de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans l'amour du Christ. Alors voilà, j'ai conscience que ce dernier texte, il n'est pas facile. C'est pas un texte facile parce que vous voyez, un, les mots sont compliqués. Deux, on a l'impression qu'on aborde des notions qui sont plus tellement pour nous aujourd'hui, condamnation, péché, justice, etc. Il y a des contresens possibles, chair, esprit, prédestination. Et en même temps, ce texte, il est beau parce que, et pourquoi est-ce qu'il nous rejoint ? Parce que nos questions, c'est exactement celle-là. on voit qu'on est tiraillé en cette loi d'amour de Dieu et la loi du péché, la faiblesse de notre chair, de notre finitude, l'interrogation sur la mort, sur l'au-delà. Et de ce point de vue-là, ce texte contient des trésors. Et le premier trésor, c'est l'espérance que Paul proclame. Pour les Romains de son temps, parce qu'il écrit aux Romains, cette communauté chrétienne, et puis pour nous aussi aujourd'hui, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et là, Paul nous parle d'un salut donné gratuitement, et qui trouve sa source où ? Dans l'amour de Dieu pour l'homme, et qui est manifesté où ? D'abord par l'envoi du Fils, et ensuite par le don de l'Esprit qui nous délivre de la loi du péché et de la mort. Voilà. Cette loi de l'Esprit, cette vie dans l'Esprit, voilà, qui fait de nous des fils, qui nous donne vie, etc. Voilà, donc le salut, je crois vraiment que c'est ça, devenir fils avec le Fils, et c'est aussi vivre de son Esprit, double perspective, d'adoption filiale et de vie dans l'Esprit. Voilà, donc vous voyez, c'est quatre catégories qu'on a essayé de parcourir, pardon, vie filiale, divinisation, vie dans l'Esprit, autant de facettes pour dire un salut. Il reste une cinquième catégorie, mais ça on verra la prochaine fois, et c'est celle qui dit encore la même chose, celle de vie éternelle. Parce que la prochaine fois, tout ça peut-être que ça vous paraît un petit peu abstrait, mais maintenant, tout ça il faut le resituer dans la dynamique de notre propre vie. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Et c'est là qu'on va parler de retour du Christ, jugement dernier, ciel, voilà. C'est toute la question de l'eschatologie. Mais qui nous dit en tout cas, vous voyez que notre vie, elle est ouverte vers un avenir. Et qu'elle est ouverte vers une perspective qui est celle d'être totalement réunie à Dieu au dernier jour. Et que rien ne nous en séparera.
Et ça, c'est la semaine prochaine, c'est ça?
Deux prochains cours.
C'est les deux prochains cours. Ok, super. Je crois que moi, la semaine prochaine, j'ai une contrainte pro. Donc, ça sera enregistré. Je pourrais...
Je vais arrêter l'enregistrement, d'ailleurs. Voilà.
Parce que c'est passionnant.